Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le podcast Pop en stock transatlantique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode sur plusieurs romans d'un même auteur, Kim Stanley Robinson. Chacun de mes collègues que je vais vous présenter tantôt va donc aborder une part de son œuvre qui est vraiment foisonnante. Donc d'abord, quelques mots sur cet écrivain qui va nous intéresser aujourd'hui. Kim Stanley Robinson est un écrivain de science-fiction américain très populaire qui publie des nouvelles et surtout des romans depuis 1984 et continue encore aujourd'hui. Certains décrivent ses romans comme de la science-fiction humaniste, mais on peut certainement inclure certains d'entre eux dans la catégorie de la hard science fiction, c'est-à-dire celle qui s'appuie sur et vulgarise des théories scientifiques véritables ou du moins crédibles. Il est d'ailleurs un des grands défenseurs de la science-fiction, du genre dont il parle régulièrement et qui a en partie théorisé d'ailleurs. Il est également reconnu comme un écrivain de gauche, donc c'est comme ça qu'il s'identifie lui-même, dont certaines de ses œuvres s'inscrivent dans la tradition des utopies socialistes du 19e et qui ont continué jusqu'au 20e, ou du moins clairement anticapitalistes. En fait, dans son œuvre, son intérêt pour la science et la politique se combinent puisqu'il appelle à une science plus directement impliquée politiquement, refusant l'idée de sa neutralité, et inversement, il aborde la dimension fondamentalement politique de la science. Né au début des années 50, il a grandi surtout en Californie où il a découvert dans les années 70 la New Wave qui l'a introduit à la science-fiction. Lorsqu'il amorce son doctorat en études littéraires, Frederick Jameson, qui est alors son directeur de thèse, lui fait découvrir le travail de Philip K. Dick, sur qui il va consacrer finalement sa thèse en littérature. Il termine donc en 82, cette thèse-là, il va la publier en 84 sous le titre The Novels of Philip K. Dick. Une influence que je pense qu'on peut voir régulièrement dans son œuvre, en tout cas dans ce que j'en ai lu personnellement. Donc un peu entre autres, la paranoïa, le goût pour le complotisme parfois de Philip K. Dick transparaît parfois dans son œuvre aussi au travers de l'optimisme. À la même époque, il développe donc une obsession aussi pour le plein air et va se marier avec une chimiste de l'environnement qui va suivre dans sa carrière tout au long de sa vie. Donc c'est assez important. Donc ça veut dire qu'il connaît bien le milieu de la science, le milieu des scientifiques et il les côtoie. Donc son premier roman, Ice Age, est publié en 84 et traduit sous le titre Les menhirs de glace, qui va être déjà assez populaire, va gagner des prix dès son premier roman. Et puis ensuite, entre 92 et 96, il va publier sa trilogie martienne, qui l'a surtout rendu célèbre, notamment parce qu'il y approfondit l'idée de la terraformation sur laquelle on va revenir. Cette trilogie, faite de Red Mars, Green Mars et Blue Mars, a remporté tous les honneurs, des prix Hugo et Nebula notamment. Dans les années 2000, il publie plusieurs ouvrages dont nous allons parler aujourd'hui, The Years of Rice and Salt, The Science in the Capital Trilogy, Galileo's Dream. En 2017, il remporte le Award for Imagination in Service to Society. Donc, c'est assez intéressant, simplement le nom du prix qui attire mon attention. Donc, le prix de l'imagination au service de la société de la Arthur C. Clarke Foundation. Plusieurs autres de ses romans ont été très bien reçus, beaucoup lus ou récompensés, mais il a connu un regain d'attention médiatique et de visibilité avec un de ses derniers romans, The Ministry of the Future, qui s'est vu recommandé par Barack Obama. Donc, paru en 2020, il s'inscrit assez clairement dans le genre de l'utopie en proposant d'imaginer un système autre que le capitalisme pour régler la crise climatique. Ce roman est notamment une tentative de réponse à la célèbre phrase de Frederick Jameson, à qui il dédie le livre, qui a écrit, hein, It is easier to imagine the end of the world than to imagine the end of capitalism. Donc, c'est plus facile d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Robinson propose donc ici de pas imaginer la fin du monde, justement, mais plutôt une alternative au capitalisme dont l'économie serait basée non pas sur la valeur d'échange, mais sur leur empreinte carbone des choses, donc des objets. D'ailleurs, au fil des romans, je pense qu'on peut dire que les enjeux environnementaux sont un des thèmes centraux de son œuvre, autant l'explication scientifique que les effets, les enjeux politiques et économiques et les solutions possibles. Mais même si les catastrophes sont nombreuses, ce n'est jamais l'apocalypse véritablement. Il y a toujours un certain optimisme des solutions imaginées et toujours fondées dans la science. Mais je m'arrête ici et je passe donc la parole à mes collègues que je vous présente maintenant. Nous avons d'abord Julien Vaquès, chercheur postdoctoral en sociologie des sciences et des arts. Il a soutenu en 2020 une thèse qui a pour titre L'horizon des possibles planétaires, dynamique et glissement de frontières entre science et science-fiction à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonjour Julien.
Bonjour.
Nous avons ensuite Yvan Burel, qui est docteur en histoire contemporaine à l'Université de Lille, qui s'intéresse notamment à l'aspect politique et historique des Uchronies. Bonjour Yvan.
Bonjour.
Ensuite, nous avons Jean-François Chassé, professeur d'études littéraires à l'Université du Québec à Montréal, donc qui est qui travaille sur l'imaginaire scientifique depuis des décennies maintenant. Je mentionnerai ici surtout son ouvrage « Si la science m'était comptée, des savants en littérature », publié en 2015 au Seuil. Je mentionne celui-ci parce que vous verrez qu'il y a un lien avec ce dont il va vous parler tantôt. Salut Jean-François.
Bonjour Hélène.
Et finalement, Marceau Forêt, qui réalise une thèse en co-tutelle en histoire à l'Université Lumière Lyon 2 et en études littéraires à l'UQAM sur les mondes anthropocènes au miroir de la science-fiction pour une histoire dialogique des sciences et de la fiction dans le monde francophone des années 68 à nos jours. Salut Marceau.
Bonjour Hélène.
Merci beaucoup à tous d'être là aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout de suite parce qu'on est assez nombreux et qu'on ne veut pas trop étirer le temps. Donc, je vais commencer en donnant la parole à Julien qui va nous parler de terraformation.
La terraformation, alors moi, je me suis intéressé donc dans le cadre de mes recherches que tu as déjà un petit peu présentées sur les usages scientifiques de la science-fiction et sur voilà, la manière dont la science-fiction transforme et influence la science. Plutôt que de voir, souvent on pense les choses dans l'autre sens, on se dit que c'est la science-fiction qui s'inspire de la science, donc la science qui modifie la science-fiction, mais je voulais voir les choses dans le sens inverse. Et donc c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressé à l'idée de terraformation, alors parmi d'autres, et donc une idée qui a été très développée, très bien décrite dans la trilogie martienne de Kim Stanley Robinson que tu as présentée. Alors, très rapidement, la terraformation, c'est une idée qui est souvent attribuée à l'écrivain américain Jack Williamson avec sa nouvelle Collision Orbit qui a été publiée en 1942. Et il est vrai qu'on y trouve la forme verbale « to terraform ». Mais cela dit, l'idée de terraformation, donc l'idée que l'humanité se mette à transformer en fait une planète, un corps céleste, entièrement, transformer son environnement, ses écosystèmes, son atmosphère, elle est quand même un petit peu plus ancienne que ça, puisqu'on la trouve déjà chez H.G. Wells dans La Guerre des Mondes en 1898. Les envahisseurs martiens n'hésitent pas à transformer la planète Terre pour qu'elle soit habitable pour eux. Et on la trouve aussi beaucoup plus détaillée chez un écrivain britannique encore, Olaf Stapledon, dans son roman Les Derniers et les Premiers, qui est paru en 1930. C'est aussi dans ce roman-là qu'on trouve une idée qui est un peu parallèle à la terraformation, c'est l'idée qui prendra le nom un petit peu plus tard de pantropie. Alors le mot de pantropie, on le trouve chez James Blish, donc un autre écrivain de science-fiction américain, dans son roman Semailles humaines, qui est paru en 1957. Et donc la pantropie, c'est en fait, donc je dis une idée parallèle, une idée inverse, au sens où cette fois c'est le corps humain qui doit être transformé pour s'adapter au corps céleste, hein, à l'autre planète, à la Lune ou quoi que ce soit. Et ça, c'est des idées qu'on trouve déjà chez Olaf Stapledon dans Les Derniers et les Premiers. Donc ça, c'était au début du XXe siècle. Et donc Kim Stanley Robinson intervient sur ce thème avec sa trilogie martienne entre 1992 et 1995. Je m'intéresse uniquement à la trilogie et pas au recueil de nouvelles qui accompagne aussi cette trilogie. Et donc, comme tu l'as mentionné, donc cette trilogie, elle est souvent identifiée comme appartenant à un sous-genre de la science-fiction qui est la hard science fiction. Alors pourquoi hard ? Parce que ça se veut très technique, très renseignée scientifiquement, mais aussi et surtout dans le cadre de cette trilogie, parce que il nous raconte, Kim Stanley Robinson nous raconte une histoire de la terraformation de la planète Mars, mais cette histoire est en train de se faire. On la voit en action, si vous voulez. Et donc, ça veut dire que Kim Stanley Robinson nous montre tous les doutes, toutes les incertitudes de cette science de la terraformation, et de cette science, mais aussi de cette industrie, en fait. Donc, il nous montre les hypothèses scientifiques qui s'avèrent infructueuses, il nous montre les expériences ratées menées par les scientifiques, qui n'ont pas les résultats escomptés. Donc, c'est tout ce récit-là qui est raconté au cours de trois volumes, donc de cette trilogie. Et donc, il y a tout un dialogue qui s'instaure entre l'écrivain de science-fiction et des recherches scientifiques par ailleurs qui existent, enfin des recherches, des spéculations scientifiques qui existent par ailleurs dans le monde réel, quoi. Donc c'était dans ce cadre-là que moi, cette idée de terraformation m'intéressait beaucoup. Alors, pour la trilogie de Kim Stanley Robinson, moi, ce que je voudrais faire vraiment très très rapidement, c'est juste de vous évoquer une lecture possible de cette œuvre. Parce que c'est vrai qu'on pourrait penser que la terraformation est un thème anti-écologique, hein, puisque la terraformation, c'est, comme je le disais, donc l'idée que l'humanité devienne, acquiert une force prométhéenne et soit capable de donner forme, hein, aux planètes, aux lunes, aux environnements, avoir une maîtrise totale sur l'univers, en quelque sorte, quoi. Donc on pourrait penser que ça va complètement à l'opposé d'un discours écologique. Mais en réalité, je pense que cette trilogie martienne est, au contraire, elle pose tout un tas de questions qui sont très écologiques. Notamment, on pourrait penser que c'est une histoire humaine, hein, une histoire qui est anthropocentrée, un peu comme toutes les histoires que nous nous racontons, en fait. Mais je pense que cette trilogie martienne nous permet, en fait, de penser la planète, de penser la planétarité par elle-même. Alors, vous savez, la planète. La difficulté, hein, que la planète soulève pour nous, hein, en tant qu'êtres humains, c'est qu'au fond, nous ne pouvons pas connaître directement la planète. Pour connaître la planète, on est obligé d'utiliser tout un tas d'outils, de méthodes, de technologies, très complexes, hein, et nous ne pouvons pas faire l'expérience de la planète, hein, en tant que telle, parce que la planète se présente comme une totalité qui est insaisissable pour nos sens. Et alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'une pratique, qu'est-ce qu'une habitude planétaire, par exemple? Et donc, c'est justement ce type de difficulté, ce type de question que prend en charge, à mon avis, la trilogie martienne, en fait. Hein, c'est donc un récit qui nous permet de penser le rapport que nous entretenons avec la catégorie de planète, de manière générale, mais aussi avec la planète Terre. Hein. Donc, il nous éloigne en fait de la Terre, a priori, puisqu'il raconte le récit, hein, de la terraformation de la planète Mars, hein, de la colonisation aussi de la planète Mars. Donc, c'est un récit scientifique, c'est un récit politique, un récit civilisationnel. C'est en transposant tous les problèmes que l'on rencontre ici sur Terre, mais sur Mars, eh bien, il nous permet de poser cette question planétaire. Et du coup, la planète acquiert tout un tas de valeurs très différentes au cours de ce long récit, quand même, hein. Et donc, je voudrais juste m'intéresser à deux personnages principaux qui me semblent principaux dans cette trilogie. C'est d'abord le scientifique Saxifrage Russell, qui, lui, est un acteur central de cette terraformation. Il désire transformer la planète Mars pour la rendre habitable pour les colons humains qui s'y installe, mais c'est aussi pour lui une soif de connaissance. Il a envie de connaître la planète Mars, il a envie de connaître comment elle fonctionne, et puis les connaissances qu'il va acquérir sur cette planète vont permettre aux humains potentiellement d'avoir un meilleur contrôle sur le climat planétaire de la Terre. Et donc, ce qui est intéressant chez lui, chez ce personnage, c'est qu'il habite la planète Mars de la même manière qu'il habite son laboratoire scientifique. La planète Mars, du coup, acquiert un statut un peu dual, puisqu'elle n'est pas seulement l'objet d'investigation des scientifiques, hein, on veut étudier la planète Mars pour la connaître, la comprendre et la terraformer, hein, mais elle est aussi le laboratoire dans lequel on mène les expériences. Et alors ça, c'est quand même très intéressant parce que ça transforme en fait la valeur même du travail scientifique. Le scientifique devient nécessairement une manière d'habiter la planète, en fait. Donc ça, c'est le premier personnage qui me semble très intéressant. Et donc, Kim Stanley Robinson, dans ce récit, nous fait une description presque phénoménologique de ce que c'est que d'habiter la planète Mars. Et on voit bien que pour ce scientifique, Saxifrage Russell, lui, il n'habite sur la planète, comme je disais, que comme si c'était son laboratoire, c'est-à-dire qu'il est terré dans son trou, il est au milieu de livres, de rapports, de textes, d'articles, d'ordinateurs, d'écrans, etc. Et c'est comme ça qu'il habite la planète Mars, quoi. Et en opposition à ce personnage, il y a un autre personnage qui est le personnage d'une femme géologue qui s'appelle Anne Claymore et qui, elle, va permettre de thématiser vraiment cette question de la planétarité, cette question du rapport à la planète, de notre difficulté de faire l'expérience de la planète. Hein, et elle n'arrête pas d'ailleurs de poser la question aux autres personnages. Elle leur demande, est-ce que tu crois que tu es vraiment sur Mars, en fait? J'ai l'impression, elle dit aussi, j'ai l'impression de ne pas être ici. Parce qu'elle voit bien que, comme les humains qui arrivent, les colons humains qui arrivent sur Mars, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils construisent des habitats, ils construisent des machines pour mettre en place des villes. Et donc, ils font des choses que les humains font déjà sur Terre. Et donc elle pose la question, mais pourquoi aller sur Mars si c'est pour faire la même chose que ce que l'on fait sur Terre, au fond? Et donc, elle montre que toutes les habitudes que les humains ont, eh bien, si on les transpose sur Mars, soudain, ils ont une toute autre valeur en réalité. Hein, creuser un trou à la surface de la planète Terre, ça ne vaut pas la même chose que de creuser un trou à la surface à la surface de Mars. Et c'est là qu'on en arrive à la spécificité, en fait. Hein, on en arrive à se poser la question de qu'est-ce que c'est que d'habiter Mars, qu'est-ce que c'est que de faire l'expérience d'une planète. Et comment la planète nous transforme. Et c'est, à mon avis, un concept très intéressant qui a été très peu étudié, il me semble, dans la manière dont cette trilogie martienne a été lue, même par des universitaires, en tout cas à ma connaissance. C'est le concept d'aréoformation qui, pour Kim Stanley Robinson et pour le personnage d'Anne Claymore aussi, hein, c'est un concept qui s'oppose à celui de terraformation. Au sens où ce n'est pas donc les humains qui doivent transformer la planète pour qu'elle réponde à leurs besoins et à leurs désirs, mais c'est la planète qui transforme les humains. Hein. Les humains eux-mêmes, puisqu'ils se trouvent sur Mars, ne sont plus les mêmes humains que ceux qui habitent sur Terre. Hein. Hein. Donc pourquoi le mot aréoformation? Juste une petite précision de vocabulaire, parce que historiquement, la planète Mars, dans le travail scientifique, elle était nommée donc Arès. Et donc l'aréoformation, c'est le fait que c'est la planète Mars qui transforme, qui nous transforme nous, qui transforme les humains. Et donc je pense que ça, c'est quelque chose de très très fort sur lequel on devrait s'arrêter, à mon avis, plus souvent, et qui nous permet de nous interroger, nous, en tant que lecteurs, hein, qui lisons cette trilogie martienne, finalement, avons-nous jamais rencontré la Terre? Avons-nous jamais pris la mesure de sa grandeur. Quelle valeur accordons-nous à la planète sur laquelle nous vivons et que nous avons trop facilement tendance à considérer comme étant la nôtre, entre guillemets. Et donc, les personnages de Kim Stanley Robinson nous permettent, hein, de, en nous éloignant, en allant sur Mars, spéculativement, de manière imaginaire, eh bien, on revient en fait sur Terre et on se pose la question sur la manière dont on habite la planète Terre.
Merci beaucoup, Julien. Cette idée de l'aéroformation est vraiment intéressante parce que elle renverse la terraformation, oui, mais elle renverse aussi l'idée du cyborg, qui est aussi née de la même logique, c'est-à-dire le cyborg est né dans les années 60 par deux ingénieurs de la NASA, ben, qui ont écrit pour un article à la demande de la NASA pour imaginer un corps humain qui s'adapterait au vide, au voyage spatial, en fait. Donc, mais l'individu et non pas l'espèce, évidemment, mais en utilisant des prothèses cybernétiques, donc en modifiant le corps, mais en le modifiant par notre connaissance cybernétique des processus de rétroaction et non pas d'aucune façon en lien avec un environnement, avec l'endroit où on est, sinon en lien avec le vide absolu. Donc, c'est assez intéressant cette idée, au contraire, d'imaginer que les espèces vont forcément s'adapter. En fait, c'est très logique parce qu'on est complètement dans la logique de l'évolution des espèces. Les espèces, généralement, s'adaptent biologiquement à l'environnement, aux limitations de l'environnement, sauf l'humain, généralement, qui a tendance à vouloir, au contraire, justement, adapter l'environnement à ses propres besoins. Est-ce que les théories de l'évolution, d'ailleurs, ont une place dans la trilogie martienne?
Je ne pense pas, notamment parce que, alors, l'un des dispositifs qu'il a mis en place dans son récit, parce que c'est quand même un récit, hein, la trilogie martienne sur plusieurs centaines d'années, et on a les mêmes personnages, en fait. Parce que, alors, au début, voilà, il y a une équipe de scientifiques qui a créé un procédé médical qui d'anti-vieillissement, ce qui permet. Alors, c'est aussi un procédé intéressant parce que, du coup, ça permet de faire se coordonner différentes échelles temporelles entre l'échelle individuelle, l'échelle de la société, de la civilisation, et l'échelle géologique, en fait. Il y a les trois qui se transforme en même temps, si vous voulez. Mais donc, du coup, l'idée d'évolution dans ce sens-là, elle n'est pas vraiment présente. Il y a bien une idée d'évolution au sens où, évidemment, il y a tout un environnement. Alors, c'est un récit aussi qui est utopiste, puisqu'à la fin, les humains ont terraformé Mars et elle ressemble à la Terre, quoi, avec des océans, des forêts, tout ça. Donc, il y a cette évolution de l'environnement, des biomes et tout ça, qui sont créés artificiellement, mais qui vont s'échapper un peu au contrôle humain, d'une certaine manière. Ils vont vivre leur propre vie. Mais il n'y a pas, je ne pense pas que ce soit au sens où toi, tu l'entends, d'évolution.
On sent l'influence de Stapleton. En tout cas, lui, il projette encore sur des millions d'années. Il montre que c'est chaque utopie mène à une catastrophe suivante qui va mener à une autre utopie, qui va mener à une autre catastrophe. Donc, c'est comme si c'est la première étape de Stapleton, mais décrit dans la minutie de comment les choses se passent, là.
Ouais, Stapledon, il est très très intéressant. Je m'intéresse beaucoup à
Ouais.
lui. Je vais sans doute visiter les archives de Stapledon bientôt. Et effectivement, oui, il y a une idée d'évolution chez lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une évolution qui est complètement menée par le hasard. C'est complètement aléatoire.
Ouais.
Et à chaque fois qu'une humanité meurt, il y en a une nouvelle qui réapparaît. Alors lui, il est très anthropocentré, hein. Il pense pas vrai. Lui, il permet pas vraiment de penser la question de la planète, comme Kim Stanley Robinson le fait.
Ouais, c'est
Mais
vrai.
cela dit, il y a quelque chose de génial dans cette idée que, voilà, en général, une humanité, alors il y a 18 humanités, je crois, il y en a une qui meurt, en général, elle est détruite par elle-même, en fait, et puis une autre réémerge, mais de complètement différente, sur des critères complètement différents, la vie se transforme. C'est une évolution presque anti-évolutionniste dans ce sens, hein. C'est assez génial, ouais.
Moi, une des choses que j'ai trouvées intéressantes, c'est le fait qu'ils mettent en scène les doutes, les errements des scientifiques. Et pour moi, ça fait un peu partie de la hard science fiction, au sens où pour le commun des mortels, j'ai eu l'occasion de le voir souvent, la science, elle est faite de certitudes. Et c'est un peu normal parce que les gens ont généralement les résultats de la science et pas le processus. Et je trouve ça très intéressant qu'on rappelle que la science, justement, n'est pas faite de certitudes, mais de débats, de contradictions, etc., etc. Et pour moi, ça fait partie la réflexion intellectuelle qui relève de la hard science fiction. Je trouve ça très intéressant.
Oui, tout à fait. Et il ajoute même une dimension, la dimension politique, en fait, puisque cette terraformation de la planète Mars, c'est un projet tellement gigantesque, forcément, il faut investir énormément de matière, d'énergie et de ressources économiques, que c'est des grosses entreprises qui vont le mettre en place. Et donc, ça pose la question de la dépendance. Alors, il y a toute une phase, c'est dans le deuxième volume, où les scientifiques débattent de la meilleure manière de terraformer la planète, mais comme ils sont tous financés par des entreprises différentes qui développent des technologies différentes, en fait, on ne sait plus si la différence entre les hypothèses, c'est aussi la différence. Enfin, on se pose la question de l'indépendance du travail scientifique. Enfin, il y a toutes ces dimensions qui sont très intéressantes chez Kim Stanley Robinson.
Oui, merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Yvan. C'est l'utopie, l'Uchronie, le temps long, c'est vraiment des choses qui sont communes clairement dans son œuvre. Et puis on est quelques années à peine après. Donc, Yvan, je te laisse la parole sur The Years of Rice and Salt.
L'ouvrage en question donc s'appelle donc The Years of Rice and Salt, traduit en français sous le titre Chronique des années noires, ce qui selon moi d'ailleurs ne serait pas le meilleur titre pour parler de la chose. Alors rapidement, de quoi cela parle? Donc c'est une uchronie. Alors pour venir sur le terme, l'uchronie, c'est imaginer un point de divergence dans l'histoire, hein, quel qu'il soit. Ça peut être un point de divergence politique, sociale, économique, culturelle, tout ce qu'on veut. Par exemple, si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale ou bien si Napoléon avait gagné à Waterloo. Des exemples parmi beaucoup d'autres. Et l'Uchronie a une vaste histoire derrière elle. Hein. Donc, Kim Stanley Robinson s'inscrit dans cette logique et il choisit un thème, je dirais, aux frontières du réalisme et de l'irréalisme. En fait, je vais un petit peu développer sur ce point. Alors, le thème général des Years of Rice and Salt, c'est que au XIVe siècle, donc à partir de 1346 et jusqu'à la fin du XIVe siècle, l'Europe a été effacée de la carte. Alors, ce n'est pas le continent qui a été effacé, mais ses habitants, parce que la peste noire aurait muté, c'est-à-dire qu'elle se serait transformée en une sorte de super peste, hein, qui aurait décimé toute la population de l'Europe et n'aurait pas tué seulement 40% de sa population, mais 99%. Et alors, quand je dis l'Europe d'ailleurs, Kim Stanley Robinson parle de l'ensemble, on pourrait qualifier de la chrétienté, en fait, c'est-à-dire toute la chrétienté occidentale, mais également de la chrétienté byzantine, mais également de ce qu'est l'époque la Rousse, c'est-à-dire les États russes jusqu'à l'Oural. Tous ces États sont effacés, il y a quelques habitants qui émergent et encore les très rares survivants, en gros, c'est dans les îles Hébrides ou dans des îles un peu isolées. Sinon, la population européenne a été effacée. Et à partir de ce postulat, je dirais ce point de divergence, qui est quand même assez lointain dans l'histoire, l'auteur imagine une civilisation où, disons-nous, les grandes puissances dominantes ne sont pas l'Occident, mais plutôt, alors, le monde musulman, dans son ensemble, hein, qui s'étend, d'ailleurs, l'Europe devient islamique. Intégralement islamique, il n'y a plus de chrétiens, il n'y a quasiment plus aucun chrétien sur Terre. De même, les autres grandes puissances sont la Chine, également l'Inde, plus particulièrement le sud de l'Inde, hein, l'Inde dravidique, si je me souviens bien, et également, enfin le terme employé, et également une sorte de confédération Haudenosaunee, c'est-à-dire une confédération menée par les Iroquois qui tiennent l'Amérique du Nord. Le mode de narration est très original car il n'y a pas un personnage, parce qu'en fait l'intrigue se fait depuis le 14e jusqu'à nos jours. En fait, il y a des petites vignettes, je ne vous les raconte pas en détail chacune, mais il y a des petites vignettes qui chacune durent quelques années, depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours, et à chaque fois ce sont les mêmes personnages. Alors, qu'est-ce que j'entends? Ce n'est pas qu'ils sont immortels, c'est simplement que l'auteur les traite comme une jati indienne, c'est-à-dire une réincarnation. En fait, on voit à chaque fois des personnages qui ont une incarnation à une époque et on les retrouve à l'époque d'après. Ils passent par une petite étape, hein, le bardo, le monde est bouddhiste, en fait, est très fortement influencé par le bouddhisme. Ils passent par le bardo et ils discutent un peu à leur mort. Ils disent, voilà, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait ça dans ma vie, etc. Et ils se retrouvent une nouvelle fois, mais ils ne savent pas qu'ils se sont connus dans une autre époque, hein. Ils ont complètement tout oublié de leur vie passée. Alors pour nous, comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître? Alors c'est simple, hein, leurs prénoms commencent par les mêmes lettres à chaque fois. Et en fait, il y a des archétypes. Par exemple, il y en a un, il y a toujours ce nom, enfin, un ou une d'ailleurs, hein, puisque les personnages changent de genre indépendamment. Il y en a un, par exemple, ou une, son nom commence par un B. C'est plutôt celui qui est l'homme de foi, l'idéaliste. Il y a celui qui commence par un K. Alors lui, c'est le rebelle, par exemple. Hein, et donc, on va toujours trouver ces personnages à travers le temps. Pour vous faire rapidement l'intrigue, disons que le monde en fait se divise entre des grandes civilisations, non pas des États uniques, hein, mais des grandes civilisations, que l'Amérique est colonisée à moitié par les Chinois et à moitié par le monde musulman également, avec au milieu les Amérindiens qui s'unissent pour leur résister. En fait, l'histoire suit, alors c'est ça un peu le paradoxe que je voudrais mettre en avant, c'est que l'histoire suit en fait une certaine logique qui n'est pas si différente de la nôtre, telle que nous, on peut la connaître. Alors, on pourrait dire que c'est un petit peu étrange parce que le monde européen a été effacé, mais complètement effacé. D'ailleurs, les valeurs européennes, il n'y a plus d'Europe. Même les gens se disent, tiens, est-ce que les dolmens, c'est les Européens qui les ont construits? Le souvenir même de la chrétienté s'efface, en fait. Mais malgré tout, il y a un certain enchaînement qui n'est pas si lointain par rapport au nôtre. Je m'explique. Il y a par exemple déjà la découverte des Amériques, effectivement, avec une colonisation qui vient de plusieurs continents. Déjà sur ce point. Après, on voit une révolution scientifique. Il y a une toute petite vignette qui se passe à l'époque moderne et où on voit dans la ville de Samarcande une révolution avec des inventions qui sont surtout le fait de quelques génies scientifiques, dirions-nous. Après, il y a les empires coloniaux qui se développent plutôt au 19e siècle, sauf que là, les empires, c'est des Chinois, c'est des Indiens, ou c'est le monde islamique. Il y a une grande guerre qui a lieu alors sur plusieurs décennies, sauf que là, c'est pas deux grandes guerres, mais on a quand même une grande guerre généralisée. Et à la fin, on a les Nations Unies qui émergent avec, en fait, des valeurs qu'on pourrait retrouver même dans la Californie de Kim Stanley Robinson. C'est un peu le point que je voudrais évoquer. C'est que le monde, en fait, suit une démarche qui n'est pas si éloignée de la nôtre. Il y a un âge des découvertes, il y a un âge scientifique, il y a un âge des grandes guerres, un âge des empires, la décolonisation. Alors, est-ce que Robinson, d'ailleurs, c'est le seul à avoir traité cette idée que le monde européen disparaisse? En fait, non. Il y a plusieurs auteurs qui l'ont fait, comme Turtledove, par exemple, qui est un spécialiste de l'Uchronie, qui l'a traité rapidement. Il y avait un autre auteur qui s'appelait Silverberg, en science-fiction notamment très fameux, qui a écrit La Porte des Mondes, où il imagine également, alors cette fois, l'Europe, c'est seulement, entre guillemets, 90% des habitants qui sont morts, et l'Europe devient turque. elle est conquise par l'Empire ottoman. Et alors lui, il imagine un monde où, en fait, il y aurait à peu près un siècle de retard. C'est-à-dire qu'il imagine qu'étant donné que le centre de la révolution industrielle a été effacé, il estime que, en fait, le monde en 1950, en fait, c'est le monde de 1850, à peu près. C'est son expérience de pensée. Ce qui n'est pas du tout le cas de Kim Stanley Robinson, parce qu'on voit qu'à travers son uchronie, il défend un message politique qui est largement explicite. Hein, je l'avais déjà évoqué un petit peu en début de présentation. Alors, son expérience de pensée, je dirais, c'est qu'à travers les siècles, on trouve toujours des personnages qui tentent la démocratie et qui tentent, je dirais, de résister à des pouvoirs autoritaires et corrompus. Et d'ailleurs, quelle que soit l'époque, hein, le premier personnage, par exemple, c'est un eunuque africain qui est capturé au XVe siècle par la flotte chinoise, qui est ramené en Chine et qui se bat contre le régime chinois qui est vu comme autocratique. Par exemple, des scientifiques qui sont face à des administrateurs corrompus. Et c'est un peu l'idée générale. On a des petites communautés qui luttent contre l'impérialisme, contre le capitalisme et contre l'État autoritaire. De même, je dirais un autre point, c'est que le monde tel qu'on le connaît, en fait, a connu un développement scientifique relativement similaire au nôtre. Quand on regarde bien, quelqu'un, à part, il faudrait imaginer par exemple quelqu'un, par exemple, se promenant au Québec ou même se promenant en France, il verrait beaucoup plus de mosquées et de temples bouddhistes que d'églises. Il n'y aurait pas d'église. Mais sinon, ce sera à peu près la même technologie, relativement, à peu près la même façon de penser, à peu près les mêmes idéologies. Et de ce fait, on peut noter deux points. Premier point, c'est que, en fait, son point de divergence, celui de 14e siècle, il est, en fait, il a l'air réaliste, c'est-à-dire une épidémie qui efface les Européens, mais en fait, il ne l'est pas. Parce que, si jamais il y avait une peste qui aurait muté, forcément, elle aurait touché le reste du bassin méditerranéen, donc le monde islamique. Et de même, pourquoi est-ce que la peste épargne l'Afrique du Nord, mais elle décime la Russie, qui historiquement a été beaucoup moins touchée par la peste? Et de même, faut pas oublier toutes les communautés européennes qui avaient lieu en Méditerranée, comme en Asie mineure, au Proche-Orient et autres. C'est le premier point. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est en fait le fait que ce monde ressemble un peu au nôtre. C'est un peu une vision, je dirais presque téléologique de l'histoire. C'est-à-dire que le monde devait forcément finir d'une certaine façon. Et même en gros, s'il n'y avait pas eu l'Europe, le monde serait survenu quand même. C'est-à-dire qu'il y aurait eu ces étapes. Et au final, le monde aurait ressemblé au nôtre. Et en même temps, alors ça pose un peu question. Alors en même temps, l'auteur, il traite en détail ce point. Il a vraiment des dizaines de pages, hein, sur comment est-ce que le monde aurait survenu au nôtre. Mais en même temps, c'est pourquoi des fois on se demande, est-ce que, ben tiens, l'esclavage disparaît? Mais il explique pas trop pourquoi. Ou pourquoi est-ce qu'en fait la révolution scientifique apparaît à un endroit, Samarcande, où historiquement elle n'est pas du tout apparue? Et c'est peut-être cet aspect, justement, je pense, qui peut-être mettrait à discuter, hein, c'est une vision de l'histoire qui est, en fait, l'humanité, avec ou sans l'Europe, aurait connu la modernité et l'époque contemporaine.
Merci beaucoup. C'est vrai que j'ai pas vu ça souvent en Uchronie. Par contre, je pense qu'il y aurait peut-être un parallèle à faire qui permettrait peut-être d'éclairer cette tendance-là, entre autres dans des œuvres comme Star Trek. On le voit beaucoup dans ces œuvres de l'exploration spatiale, ou en particulier des œuvres comme Star Trek où on est dans un univers qui est pas peuplé d'humains, là. On n'est pas dans les univers d'Asimov où il y a très longtemps des humains auraient peuplé des mondes autres, mais plutôt dans la découverte de mondes différents qui ressemblent à des mondes parallèles au fond, qui reviennent au même. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idéologie de Star Trek est la même que celle de Stanley Robinson. Clairement, c'est les rares utopistes de la science-fiction contemporaine d'ailleurs, qui imaginent que chaque planète visitée va évoluer exactement de la même façon. Puis d'ailleurs, ça revient constamment. Quand on rencontre des planètes où les gens sont moins technologiquement évolués, on les considère comme n'ayant pas encore atteint le niveau d'évolution qui permettra d'entrer en contact avec eux. Et donc, on met même une loi, la directive première, qui dit: on ne peut pas entrer en contact avec eux tant qu'ils n'ont pas atteint notre niveau d'évolution, puis sous-entendu toujours que l'évolution sera toujours la même. Donc, si on a un système, par exemple, un système judiciaire qui est considéré comme barbare, qui n'est pas encore au niveau de cet idéal humaniste du 23e siècle, ben on attend avant de les rencontrer pour... Il y a cette idée-là de l'évolution théologique, je pense, qui était là très forte dans les années 60, ben, à l'époque où Stanley Robinson grandit en Californie. Donc, c'est tout à fait logique. Je pense que c'est tout à fait dans son imaginaire. Mais c'est vrai que ça un peu moins en Uchronie en général, parce que les Uchronies ont tendance, au contraire, à être dystopiques assez rapidement. Donc, c'est assez rare qu'on a cette vision-là où on revient. Il y a aussi que c'est assez rare, en fait, les Uchronies sur le très long terme, en fait, des Uchronies dont le point de divergence est très éloigné dans le temps et qui tente de se projeter sur des siècles. C'est très rare, puis c'est même rejeté par certains spécialistes de l'Uchronie comme pouvant être de l'Uchronie crédible. Puis d'une certaine façon, de ce que tu en dis, ça fait presque prouver ça, c'est-à-dire que si on essaie de se projeter trop loin, ça devient soit complètement impossible d'imaginer les divergences, parce que l'idée de l'Uchronie étant par définition qu'un seul détail pourrait tout changer. Donc, déjà, cette prémisse-là peut être tout à fait problématique, mais si on accepte cette prémisse qu'un détail pourrait tout changer, ben forcément, plus on s'éloigne de ce point-là, plus les choses deviennent chaotiques, plus ça devient complètement impossible à prédire, et plus, ben, clairement, on se réfugie dans le même, dans le familier. Et donc, ça prouve un peu qu'on est incapable d'imaginer autre chose que notre propre monde. Ou en tout cas, on n'est pas capable de s'en éloigner tellement, en fait. Au-delà de simplement le modèle que Stanley Robinson peut imaginer, son espèce d'humanisme californien, ben, ça serait vrai de toutes les formes d'imagination d'un monde différent, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on finit par... Plus on s'éloigne, plus on finit par converger, paradoxalement.
C'est vrai, effectivement, c'est d'autant plus complexe hein, de faire des choses qui se passent sur des siècles. Après, ça peut se faire, hein, genre en Uchronie, mais effectivement, plus vous vous éloignez, plus c'est lointain, c'est-à-dire un point de divergence, d'accord, mais mettons par exemple que votre pur hasard, par exemple, Christophe Colomb, par exemple, intervient dans un monde où 20 ans auparavant, mettons, la reine de Castille est morte. Tiens, Christophe Colomb ne peut se faire financer par les Espagnols, il va en France, c'est le roi de France qui finance son expédition, l'Amérique est découverte autrement. Peut-être 20 ans plus tard, où là, coup de bol, c'est les Incas qui ne sont pas aussi affaiblis. Et là, on peut vraiment se faire plaisir sur ce point. Je pense qu'en fait, vu que je crois que c'est sa seule venue dans l'Uchronie, je pense qu'aussi, c'était pour lui un moyen de faire passer un message avant tout. Plus que vraiment s'intéresser à est-ce que les faits sont réels ou non, ou est-ce que parfois, même le point de départ n'est pas réaliste. Parce que là, en fait, une telle peste, en fait, l'humanité aurait disparu. Donc encore, je pense qu'il est conscient du fait que ce soit plutôt une expérience de pensée. Et c'était pour lui l'idée de défendre un message, c'est-à-dire la modernité n'est pas née en Europe nécessairement, mais aurait pu tout à fait naître sur d'autres continents, sur d'autres civilisations. Et en fait, ce n'est pas la modernité qui est née en Europe, mais plutôt l'Europe, je dirais actuelle, qui est née d'une certaine évolution de l'histoire. Et je crois que c'était plutôt ça le sens général de son ouvrage.
Donc, s'éloigner de l'exceptionnalisme européen, quoi.
Non, tout à fait. Après, la seule chose, c'est que, je pense, c'est un petit peu le point, qu'en voulant s'en éloigner, il y a un petit peu revenu, parce que malgré tout, ça ressemble très fortement à notre monde, et on a quand même du mal à imaginer que les civilisations auraient évolué de la même façon que l'Europe. Par exemple, je dis tout simplement l'esclavage en terre d'islam, hein, qui n'est aboli que notamment sous influence européenne fin 19e, début 20e. Pourquoi est-ce que là il est aboli? Ou pourquoi est-ce que la Chine se lance dans des explorations alors qu'elle ne l'a pas fait historiquement? Ou en fait, certains points, on peut se dire qu'en voulant donner la parole à d'autres civilisations, d'un certain point de vue, il leur a un petit peu fait dire ce que lui voulait plus ou moins défendre. Mais après, c'est voir dans quel sens on peut l'entendre.
Peut-être que c'est pas tant un problème que l'histoire qu'il raconte ressemble à la nôtre, mais sans l'Europe, justement, c'est une prise de position politique sur les questions postcoloniales, en fait, d'une certaine manière. C'est de dire que ben, C'est vraiment un effacement complet de l'Europe au sens où, même si elle n'était pas là, eh ben, on serait quand même, comme tu l'as dit, moderne, etc., quoi. Et ça, je trouve que c'est un geste qui est quand même très intéressant. Et je me demandais simplement si c'était, si tu avais regardé du côté des lecteurs et des lectrices de ce roman, s'il a été reçu justement parmi les penseurs du postcolonialisme ou du décolonialisme, ou si ça ne les a pas intéressés du tout. Parce que du coup, ce serait un peu tu vois, une comparaison intéressante, parce qu'aujourd'hui, on a quand même des récits postcoloniaux, décoloniaux qui viennent de partout du monde et qui cherchent à provincialiser l'Europe. Et ici, on a un récit, bon, pas européen, mais occidental, qui essaie de se provincialiser de l'intérieur. Alors du coup, est-ce que c'est deux tentatives qu'on peut comparer effectivement, qui peuvent se rapprocher, ou qui au contraire vont dans des directions opposées? Je sais pas. C'était juste une réflexion comme ça qui me venait.
Non, c'est un point super intéressant. Alors, les logiques décoloniales ont été mises en avant. Alors, c'était plutôt l'idée qui est apparue, je dirais, celle qu'on donne la parole aux autres civilisations dans l'histoire du monde. C'est-à-dire que le monde n'est pas vu avec l'Europe qui apparaît, enfin, qui monte en puissance au 15e et qui de fait influence le reste, mais plutôt un monde plutôt multipolaire dans cet aspect-là. Et c'est davantage cette chose, il me semble, en voyant les lecteurs, qui avait été mise en avant. Alors après, tout à fait, hein, ça rejoint largement ce côté décolonial. Alors c'est, enfin, l'auteur s'inscrit complètement devant, enfin, dans cette logique, car plusieurs personnages militent contre les empires coloniaux, notamment l'empire chinois, qui est vu comme l'empire se rapprochant le plus, entre guillemets, des méthodes européennes d'implantation et de construction d'un empire colonial avec un centre politique. Et effectivement, c'est même provincialiser l'Europe et même... Mais justement, c'est la chose, c'est en fait, lui, il n'a pas choisi de la provincialiser, c'est-à-dire, par exemple, mettons, les Européens perdent à les pentes ou le Nouveau Monde est conquis, mettons, par les Chinois à la place. C'est même vraiment l'idée, l'Europe n'a, comment dire, les valeurs universelles, selon Robinson, ne sont pas des valeurs européennes, mais plutôt, on peut les retrouver n'importe où dans son aspect-là. Et c'est plutôt ce point de vue-là qu'il a choisi, qui est très intéressant. Mais en même temps, c'est un petit peu l'autre aspect qui est, d'un certain point de vue, il fait un petit peu parler les civilisations, enfin, il se fait parler lui-même à travers certains personnages, plutôt qu'essayer de trouver, par exemple, une singularité qui soit radicalement différente de l'Europe. Par exemple, il aurait pu s'amuser à mettre une civilisation aztèque où on continue d'avoir des sacrifices humains, la guerre fleurit et des personnages qu'il défendent. Or là, c'est pas du tout le cas.
Jean-François?
Oui, ben, j'ai une question qui poursuit un peu la discussion. C'est là, je me demandais, moi non plus, j'ai pas lu le roman et j'ai une folle envie de le lire. Mais je me demandais s'il y avait, si on pouvait en tirer une lecture un peu nihiliste, c'est-à-dire, est-ce que, au fond, Robinson ne dit pas, oui, l'Europe a été colonialiste, les États-Unis ont été esclavagistes et tout, mais sans l'Europe, sans les États-Unis, sans les Blancs, finalement, il y aura toujours des colonisateurs et des gens qui voudront dominer, qui voudront prendre le pouvoir. Est-ce qu'on sent un peu cette réflexion en arrière-plan?
Ah, c'est très intéressant. Alors, d'un certain point de vue, je dirais oui, parce que, enfin, les phénomènes de colonisation n'attendent pas l'Europe, vu que ça, enfin, à part l'impérialisme européen, dirons-nous, du 19e siècle, qui a une spécificité moderne, il y a déjà des phénomènes d'implantation, d'extermination des populations ou même d'implantation de colonies. Après, il y a aussi, alors, ça, c'est un point notable, c'est que la colonisation ressemble à celle de l'Europe, ça, tout à fait. Par exemple, il y a des anticolonialistes. Et il y a des colons avec des strates qui sont à chaque fois sur des bases ethniques, notamment les Japonais, par exemple, se font coloniser par les Chinois, puis il y a une révolte coloniale. Mais en même temps, ce monde est un petit peu divergent parce que, par exemple, les Amérindiens arrivent à s'unir. C'est-à-dire que les Amérindiens arrivent à s'unir et à bloquer à la fois les Chinois et les musulmans, parce que n'étant pas confrontés au bouleversement démographique européen, ils arrivent à jouer les Chinois et les musulmans l'un contre l'autre. Et à être indépendant. Donc, malgré tout, il y a quand même l'idée que si jamais l'Europe n'était pas là, on aurait eu certains aspects, alors positifs ou négatifs. Alors, comment l'auteur plutôt a l'air de dire que le monde aurait été un petit peu différent, mais il y aurait eu des points positifs comme négatifs, tout comme dans le monde que l'on connaît.
J'ai envie de donner la parole, Jean-François, tout de suite, étant donné que j'ai l'impression que tu vas peut-être faire un lien entre l'histoire et la science, puisque tu vas nous parler de Galileo's Dream.
On a parlé de Mars, et puis Mars est très associé à Robinson à cause de sa trilogie célèbre. Moi, je vais plutôt vous déplacer vers Jupiter, qui est vraiment le point focal du roman dont je vais vous parler, ou plutôt un des deux points, parce que l'autre est Galilée. Ce que le titre pouvait déjà laisser sous-entendre, hein, donc comme Hélène l'a dit, c'est Galileo's Dream traduit littéralement par le rêve de Galilée. Alors c'est un titre qui pourrait avoir une valeur métaphorique, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un roman qui met en scène Galilée. On dit souvent que les héros des romans de Robinson sont des scientifiques, mais là son héros est vraiment un scientifique historique. Alors je vous avouerai que j'ai trouvé ce roman un peu bancal, mais j'ajoute que je l'ai trouvé intéressant. Et touchant même pour cette raison, j'y reviendrai. Je commencerai par mentionner que si j'ai voulu me pencher sur ce roman, c'est à cause d'un ancien projet, Hélène en a glissé un mot, qui portait sur la représentation fictionnelle de figures historiques de la science. Donc, j'ai publié un livre où je m'arrête à sept d'entre elles, un prémoderne, Giordano Bruno, et puis Newton, Darwin, Marie Curie, Einstein, Oppenheimer et Galilée. Donc, mon livre a été publié en 2009, c'est l'année de la sortie du roman de Robinson, donc j'ai pas pu l'utiliser. Je l'avais vu passer sans m'y arrêter. Alors, je dis que le roman est un peu bancal. Bon, je pourrais nuancer un peu, mais disons d'abord que le roman se déroule dans deux horizons temporels. D'abord, le 17e siècle de Galilée, et puis l'année 3020, où le mathématicien sera transporté. Les deux horizons temporels s'articulent l'un de l'autre, bien sûr, mais ça me semble par moments un peu artificiel. Dans la mesure où on a l'impression que bon, Robinson, en bon auteur de SF, nous projette dans un monde d'anticipation qui conduit en fait à une vaste réflexion très intéressante sur la temporalité. Mais au fond, je ne pouvais pas m'empêcher de m'enlever de la tête l'idée que ce qu'il voulait, c'était écrire un roman à partir de la vie de Galilée, pour qui il a manifestement une immense passion. Et c'est là que je le trouve touchant. Bon, alors le roman commence en 1609, Galilée a alors 45 ans, mais vous savez peut-être, c'est vraiment à ce moment que sa carrière d'envergure commence. Hein, jusque-là, Galilée est un professeur, un chercheur, un mathématicien reconnu à travers ce qui n'est pas encore l'Italie, mais son aura n'est pas encore ce qu'elle sera à partir de cette année-là, c'est-à-dire l'année de son utilisation du télescope et de la parution de son livre « Le messager des étoiles » en 1610. Bref, 1609-1610, c'est vraiment l'année, le moment où Galilée va devenir Galilée. Alors, le roman s'ouvre sur une scène où, on le comprend à rebours, se trouvent deux éléments essentiels du roman, la vue et la vision et le temps. Alors, Galilée voit un étranger et il est certain de l'avoir déjà vu. Il ne sait pas quand. Les temps se confondent de manière un peu trouble. Et l'étranger lui signale du menton qu'il a perçu son regard. Alors, c'est cet étranger qui va l'orienter vers le télescope. Donc, d'une certaine façon, c'est grâce à cet étranger que Galilée va s'intéresser au télescope. Télescope, je le rappelle, sur le plan historique, qui existe déjà en Hollande. On a accusé à un certain moment Galilée de plagiat, mais en fait, Galilée a donné au télescope une qualité qui n'avait pas d'équivalent à ce moment-là. Donc, cet homme qu'il croise se nomme Ganymède, comme une des quatre lunes de Jupiter que Galilée découvrira. Et il vient justement de la planète Jupiter en 3020. En 3020, Galilée est considéré comme le premier scientifique, ce qui fait sens aujourd'hui pour nous par rapport aux sciences modernes. Et pour Ganymède, l'existence de Galilée, c'est un moment clé, c'est vraiment la cristallisation du temps où tout peut changer, pour éviter les horreurs à venir dans l'histoire humaine. Alors, c'est pour ça qu'il va le conduire, grâce à ce qui est appelé un intricateur à son époque, en 3020, en espérant qu'il pourra infléchir les politiques de ceux qui sont contre ses propres positions. Donc, c'est vraiment extrêmement politique, où ce qui se passe en 3020 fait écho à ce que Galilée lui-même va vivre. Ganymède est accompagné d'un homme qui se nomme Cartaphilus, qui va devenir un serviteur de Galilée, dont on comprend à la fin qu'il est le narrateur de cette histoire, le nous qui revient parfois dans le roman et qui revient de plus en plus souvent au fil du roman. qui vient donc lui-même du futur et qui sert de trait d'union entre les époques anciennes et le futur. Alors, Ganymède est considéré en 3020 par plusieurs comme un fanatique, un chef de secte, et pour cela, il est dangereux. C'est ce que dit notamment Héra, qui prendra Galilée sous son aile. Hein, elle va dire, nul n'est plus dangereux qu'un idéaliste persuadé d'avoir raison. Il sera même comparé, pardon, à Savonarole. On est à une époque 3020 où on a découvert de nombreuses dimensions de l'espace-temps. Toutes les potentialités existent. C'est ce que Héra explique à Galilée. Toutes les potentialités existent. Quand une analepse crée un nouvel isotope temporel, il coexiste avec les autres et ils sont tous intriqués. Tous ensemble, ils constituent la variété qui change sous l'impact de la nouvelle potentialité et se modifie, mais continue quand même. Or, dans ces potentialités que Ganymède a vues, Galilée meurt sur le bûcher, ce qui aurait pu arriver. Scène que Galilée lui-même va voir, scène assez saisissante, qui n'est pas d'ailleurs sans rappeler la mise à mort de Giordano Bruno. Hein, les rapports entre Galilée et Bruno, historiquement, sont assez complexes. C'est-à-dire, Galilée n'a jamais connu Bruno, mais à cause de la mort de Bruno sur le bûcher en 1600, Galilée va toujours éviter de parler de Bruno, étant donné que ses propres hypothèses sont évidemment fortement combattues par l'Église. Alors, Ganymède voudrait orienter la vie de Galilée vers cette scène, qui voudrait que Galilée finisse sur le bûcher, puisque s'il est vrai que le procès de Galilée a conduit à une rupture entre l'Église et la science, pour Ganymède, ce serait beaucoup plus fort si Galilée était exécuté. Ça aurait dans l'histoire un impact pro-scientifique beaucoup plus important qui améliorerait le futur de l'humanité. Évidemment, Galilée n'en voit absolument pas l'intérêt, il trouve pas ça intéressant du tout. Parallèlement, Ganymède et ses alliés veulent s'attaquer à une entité qui se trouve sous les glaces de la Lune Europe, mais c'est comme s'ils s'attaquaient en réalité à un enfant de Jupiter, et ça, c'est un autre aspect important du roman. Donc là, on revient à la question de la planète dont Julien parlait, c'est-à-dire que Jupiter apparaît un peu comme la théorie Gaïa de James Lovelock. Jupiter est une entité vivante, pensante, qui va réagir aux attaques, Europe étant présentée en fait un peu comme si s'il s'agissait de son enfant. Et dans une scène très forte et assez longue, assez onirique, Galilée est projeté, si on veut, dans les pensées de Jupiter, c'est-à-dire un flot d'ondes et de forces qui ne sont pas des paroles, mais qui ont un peu un effet semblable. Premier axe important, c'est un roman qui porte très largement sur les fluctuations et les possibilités offertes par le temps, mais il reste aussi, je sais pas s'il faut dire surtout, mais en tout cas c'est vraiment la partie la plus importante du roman, la vie de Galilée, la vie de Galilée vue de l'intérieur, avec Galilée avec tous ses défauts, hein, qui sont largement exposés. Il est présenté, je cite, comme fanfaron, sarcastique, égocentrique, tous les défauts du monde, c'est sûr. Un égocentrisme qui lui coûte cher d'ailleurs parce que, et ça c'est historiquement assez bien démontré, et puis Robinson le présente bien, Galilée n'est pas toujours conscient des enjeux politiques de ce qui se passe dans la région italienne, n'est pas conscient des enjeux, et à cause de ça, ça va lui coûter très cher parce qu'il y a des choses qu'il ne saisit pas. Et Robinson rend bien compte, je dirais, du côté très Falstaff de Galilée. Sur Jupiter, Héra, qui est une Mnémosyne et qui va devenir en quelque sorte la psy de Galilée, va insister aussi sur sa misogynie dans le contexte patriarcal du XVIIe siècle. Donc, il y a une dimension féministe qui est assez intéressante. Au-delà de la propre vie de Galilée, ce qui est en jeu, ce sont vraiment les enjeux politiques du XVIIe siècle, les enjeux de pouvoir. Galilée a beau avoir tous les défauts qu'il a, ce que Robinson met en scène, et je pense que ça relève aussi de la pensée politique de Robinson, c'est que Galilée est persécuté à cause de sa défense de la connaissance contre l'obscurantisme. Et il y a des scènes très, très longues autour du procès de Galilée. On pourra en reparler si vous voulez, mais vous savez peut-être que le procès de Galilée, c'est quelque chose de très complexe. Les raisons d'abord du procès de Galilée sont très complexes. C'est lié justement des enjeux politiques que Galilée n'avait pas du tout vu venir. Si en 3020, il est considéré comme le premier scientifique de l'histoire. On voit pourquoi ça se produit au XVIIe siècle, pourquoi il apparaît déjà comme une figure centrale de l'histoire des sciences et aussi pourquoi il a tant d'ennemis.
Merci. C'est vraiment intéressant, cette idée-là. Dans le futur, on imagine que si Galilée avait brûlé sur le bûcher, ça aurait changé l'histoire. Donc, on a comme une genre de pulsion uchronique.
En fait, c'est vraiment l'objectif de Ganymède, hein. Il y a en 3020 des courants politiques et Ganymède est le chef, comme il est présenté, chef de secte. En fait, il défend, en fait, cette volonté de faire de Galilée la figure à partir duquel on pourrait changer l'histoire. Mais en fait, c'est un peu l'effet papillon. Hein. Ce que d'autres vont répondre, c'est que c'est pas en changeant un élément. On change un élément, mais on se trouve à changer d'autres éléments en même temps. On peut pas s'imaginer que parce qu'on change un élément dans toutes les potentialités temporelles, soudainement, tout va s'arrêter et puis un élément va suffire à tout changer.
C'est intéressant que tous les trois, finalement, vous mettiez en avant ce côté de la temporalité parce que il me semble justement que Kim Stanley Robinson, par son intérêt accru aux sciences, finalement, opère sans cesse un renouvellement de son rapport à la temporalité. Je le lisais justement dans une interview récente qu'il expliquait que son dernier ouvrage, Mystery for Future, opérait un changement dans sa temporalité au sens où il le plaçait dans une temporalité beaucoup plus proche, dû aux récentes informations liées à l'accélération du changement global. Mais la question que je voulais te poser, Jean-François, n'était pas liée à la temporalité particulièrement, mais plus au fait que, est-ce que dans ton travail de recherche sur Galilée, sur ces différents scientifiques, tu vois une récurrence dans la représentation que fait Kim Stanley Robinson sur Galilée? Tu vois d'autres récurrences avec les autres ouvrages que tu as pu lire sur le sujet, les autres romans, ou est-ce que c'est vraiment, il est très singulier?
En fait, il y a un élément clé qui revient dans la fiction quand on parle des scientifiques et puis en particulier Galilée, c'est la dimension politique. En fait, c'est de montrer que si on parle des recherches scientifiques, ce qui est le cas très souvent, on parle sérieusement de la recherche scientifique, c'est jamais coupé de la dimension sociopolitique. Et c'est clair que le procès de Galilée, on revient dans les ouvrages de fiction qui parlent de Galilée, on revient toujours au procès, qui est quand même un élément de façon historiquement clé. Bon, on sait que Descartes a mis un manuscrit dans un tiroir après le procès en disant « je peux pas publier ça actuellement ». Mais c'est très complexe, le procès de Galilée, parce que c'est lié à des événements qui sont extérieurs aussi aux théories de Galilée. C'est-à-dire que le pape Cardinal Barbieri, auparavant, était un bon ami de Galilée. Bon, on a dit qu'il s'était senti très très frustré parce que dans son livre sur les dialogues sur les systèmes du monde, Galilée l'aurait présenté de façon un peu ridicule. Mais il y a d'autres raisons beaucoup plus importantes. C'est que le pape est à ce moment-là extrêmement isolé parce que les forces protestantes sont importantes. Parce que les Espagnols sont de plus en plus du côté des adversaires du pape. Bon, je fais une histoire très, très rapide parce qu'elle est très complexe et intéressante, mais le pape doit donner des gages. Galilée étant une figure centrale de ce qui est vu comme une opposition à l'Église à cause de ses positions coperniciennes, et donc en même temps, parce qu'il est défendu par les protestants qui le voient comme un martyr de l'Église catholique, bon, le pape est obligé de donner des gages, mais il ne doit pas donner des gages trop importants non plus, parce que si, par exemple, il brûlait effectivement, il exécutait Galilée, ben là, il donnerait l'impression de tout laisser tomber et puis de donner entièrement raison à ses adversaires. Alors qu'il peut pas faire ça non plus. Il peut pas dire je suis le pape, mais c'est mes adversaires qui ont raison. Donc il doit donner des gages, mais pas complètement. Donc il le condamne, mais en même temps il le laisse vivre dans sa maison. Bon, alors tout ce qui entoure le procès relève de questions à la fois scientifique, mais qui déborde largement des sciences. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les ouvrages, et c'est ce qui est intéressant souvent dans les ouvrages de fiction qui parlent de figures scientifiques, c'est l'intrication constante entre la recherche scientifique et des phénomènes qui sont d'un ordre sociopolitique. C'est le cas, bien sûr, avec Einstein, c'est le cas avec Oppenheimer encore plus, avec Giordano Bruno, c'est évident également, donc...
À quel point le procès prend beaucoup de place dans le texte? Est-ce qu'il est vraiment reproduit? Est-ce qu'il y a vraiment les dialogues en détail?
Très en détail.
Je te demande ça parce que souvent, j'ai remarqué que dans beaucoup d'œuvres où on voit des procès liés à la science, c'est souvent l'occasion dans le texte d'intégrer beaucoup de discours, de vulgarisation, de discours didactiques. Tu sais, c'est l'occasion de de créer comme une rupture discursive parce que justement, on n'est plus dans une narration, on est dans le monologue, on est dans l'avocat qui peut expliquer des grandes théories puis qui permet de s'éloigner du narratif.
Non, c'est très bien. En fait, je parle de deux. Je dis que l'articulation me semble parfois un petit peu artificielle. Je n'ai pas regardé précisément, mais je dirais qu'à peu près les deux tiers du roman qui se passe au XVIIe siècle, et c'est vraiment ancré dans le XVIIe siècle, et c'est la vie de Galilée et la science de l'époque. Ça me semble, bon, Robinson a beaucoup publié, je ne connais pas toute son œuvre, mais ça me semble assez particulier dans son œuvre de ce point de vue-là, cette dimension très largement historique. Et là, on n'est pas dans cette partie-là, on n'est pas dans l'Uchronie. On suit vraiment de très très près la vie de Galilée de l'intérieur.
Vous avez dit que le roman était assez bancal. Je me demandais, en tant que lecteur, est-ce que c'est justement cette dimension historique qui était intéressante? Que le plaisir de lecture vient du fait que l'histoire du personnage informée, elle est renseignée, elle est assez exacte, ou avec des petits décalages, mais qui sont maîtrisés peut-être? Que c'est ce rapport-là, un peu un rapport classique qu'on peut avoir avec des récits de hard science fiction, où on prend plaisir à voir les données scientifiques, donc ici en l'occurrence historiques, et à spotter les erreurs que l'auteur aurait pu laisser, par exemple. Ou est-ce que c'est un autre mode de lecture?
Alors, j'ai dit que c'est un peu bancal. Si je veux présenter les choses plus positivement, je dirais que ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux romans. D'un côté, on a beaucoup de réflexions, la vie de Galilée, beaucoup de réflexions sur la vie de Galilée. Et en même temps, il y a tout ce qui se passe en 3020, où il y a une très, très grande réflexion sur la temporalité. Il y a beaucoup de choses qui sont avancées, qui relèvent de spéculations, je crois, tout à fait scientifiquement, plausible, c'est-à-dire la théorie des cordes, par exemple, n'est jamais mentionnée, mais je voyais bien que parfois, dans certaines réflexions sur ce qu'on avait découvert sur la temporalité, ça relevait d'hypothèses actuelles sur ce que la théorie des cordes pourrait développer. Il y a des moments où Galilée dit à Cataphilus, qui est en mesure de sortir l'intricateur, ah non, mais là, ça n'a aucun sens, il faut que j'y retourne. Alors c'est là que ça paraît un peu artificiel, c'est qu'on a l'impression que il y a des moyens un peu artificiels pour lier les deux époques. En même temps, ce qui est aussi intéressant dans les scènes qui se passent en 3020, c'est comment on voit la science, la naissance de la science moderne. Galilée est souvent perçu comme les textes de Galilée comme la naissance de la science moderne, mais là ça s'ancre vraiment dans une réalité du futur où on voit un peu. À un certain moment, Galilée a droit à une sorte de cours grâce à une machine, un casque qu'on lui met sur la tête, une sorte de cours en accéléré des mathématiques et de la physique depuis le XVIIe siècle. Elle est un peu ahurie. Et donc, on voit bien comment Galilée est à la naissance des mathématiques et de la physique moderne, et on voit au-delà. Et ça, c'est assez intéressant aussi. Là, on est à la fois manifestement dans une très grande compréhension de la part de Robinson, enfin, pour ce que moi je connais superficiellement des mathématiques et de la physique, à travers la théorie de la relativité, la physique quantique, etc. Et à partir de là, on est vraiment dans une spéculation qui, ma foi, me semble cohérente sur le futur de la physique à partir de là. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Donc, on a deux plans différents, très intéressants, l'un comme l'autre. Je dirais que c'est dans l'articulation, il y a peut-être une faiblesse, mais dans un cas comme dans l'autre, on s'amuse comme un fou, hein.
Merci beaucoup. Si vous voulez bien, je vais enchaîner avec une trilogie que Kim Stanley Robinson a écrite juste quelques années avant Galileo's Dream, qui est donc entre 2004 et 2007. Donc, il a écrit plusieurs trilogies comme ça, plusieurs cycles, et qui va nous garder complètement dans la science, mais beaucoup moins dans l'histoire dans ce cas-là, parce que ça se passe dans un futur très rapproché. C'est pas précisé en quelle année, mais on évoque Bush comme un président, le président précédent. Donc, on peut s'imaginer qu'on est à peu près dans les mêmes, dans les années d'aujourd'hui ou à peu près. Donc, on est dans un avenir très, très rapproché, qui crée un effet un peu étrange à la lecture parce que c'est écrit dans les années début 2000, puis on a l'impression que on parle de changement climatique comme on en parle exactement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à la lecture, on a un peu l'impression de tourner en rond, qu'en 2000, 2005, on était dans l'urgence absolue et qu'on était en train de trouver des solutions. Et puis, on a l'impression qu'on est exactement, chaque phrase pourrait être prononcée aujourd'hui. du roman. Et donc, ça crée un effet un peu troublant, disons, d'impression qu'on tourne en rond depuis 15 ans, en fait, depuis un peu plus même. Donc, à partir de 2004, donc, Robinson commence à publier sa trilogie qui va s'appeler Science in the Capital Trilogy, qui est un titre peut-être un peu aride, mais très, très précisément, qui désigne très précisément ce que c'est. C'est-à-dire vraiment une trilogie qui parle de science et de politique à l'époque contemporaine. Donc, qui est amorcé avec 40 Signs of Rain et se poursuit donc en 2004 et se poursuit avec 50 Below en 2005 puis 60 Days and Counting en 2007. La trilogie s'inscrit dans une tradition de romans de SF américains qu'on voit apparaître au moins à partir des années 80, avec Gregory Benford, par exemple, dans Timescape en 1980, puis après ça avec Greg Bear dans Blood Music ou Darwin's Radio, donc à la fin des années 80 et jusqu'au début des années 2000. Donc, c'est des romans qui intègrent la science dans le texte littéraire d'une manière très, très réaliste, mais au sens d'une sociologie des sciences, c'est-à-dire vraiment la science qui est tout sauf romantique, tout sauf fantasmée, qui est une pratique sociale, un secteur d'activité avec ses règles, ses acteurs, une science qui produit du savoir, qui est mêlée à la politique, qui est mêlée à l'économie. On est donc devant des fictions de personnages qui sont des scientifiques très réalistes avec leurs habitudes, leurs traits de personnalité, leurs relations de travail et de pouvoir. Mais en même temps, le savoir scientifique lui-même est intégré au texte. C'est ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la combinaison des deux. Donc, je me suis surtout arrêtée au deuxième tome, 50 Below, pour aujourd'hui. En bref, on suit le travail des employés de la NSF, hein, la National Science Foundation, l'équivalent américain de notre CRSNG au Canada ou de l'ANR en France, et leur réaction devant la crise des changements climatiques qui est en train de devenir de plus en plus urgente. Ils doivent choisir parmi les demandes de subventions les plus prometteuses pour avoir un impact rapide et tenter d'influencer les élus politiques pour qu'ils basent leurs décisions sur la science plutôt que sur le marché. Donc, dans le premier tome, la ville de Washington a été presque entièrement inondée par une crue exceptionnelle du Potomac. Dans le deuxième tome, l'eau a baissé, mais la ville se remet difficilement. Beaucoup de maisons sont rendues inhabitables et les infrastructures sont en mauvais état. Le Congrès refuse de voter les fonds qui seraient nécessaires pour vraiment revenir à la normale, comme c'est souvent le cas. Hein. Le Congrès est souvent en opposition avec la ville de Washington pour beaucoup de raisons historiques et politiques complexes dans lesquelles j'entrerai pas ici. Que les animaux du zoo ont été libérés au moment de l'inondation pour leur permettre de survivre. Alors, dans le deuxième tome, ils sont vraiment partout dans les parcs de la ville et on les rencontre au coin des rues, donc tous les animaux exotiques. Le roman suit surtout le personnage de Frank Vanderwall, un sociobiologiste qui travaille pour la NSF, donc un administrateur de la science. Au début du roman, il est expulsé de son appartement et décide de s'installer dans le Rock Creek Park et de vivre sur une plateforme dans un arbre, alors qu'il se rend travailler tous les jours dans son bureau de fonctionnaire. Donc déjà ça, c'est pas mal original comme structure. Il participe aux efforts de retracer les animaux du zoo. Il aide la communauté grandissante de sans-abri, alors qu'il continue son travail sur la mitigation climatique au gouvernement. Donc, au cœur de l'hiver suivant, une période de froid extrême s'abat sur Washington, les températures atteignant moins 45 degrés Celsius, donc moins 50 en Fahrenheit, donc d'où 50 below, pendant plusieurs jours, ce qui provoque des coupures d'électricité, des arbres qui brisent, des morts parmi les sans-abri, des feux, etc., etc. Donc, la période extrême est courte, donc ça, c'est ce qui m'a un peu surpris, mais c'est ce qui semble en fait assez courant dans l'œuvre de Robinson, c'est-à-dire que lui, c'est pas l'apocalypse tellement qu'il l'intéresse. Donc, c'est une période courte qui est extrême, mais l'hiver très froid se poursuit jusqu'en mai, alors que des catastrophes naturelles se multiplient un peu partout sur la planète. Des catastrophes de l'ampleur qu'on voit maintenant, c'est-à-dire pas, on n'est justement pas dans un régime apocalyptique, on est vraiment dans le régime presque des nouvelles qu'on peut voir tous les jours, c'est-à-dire les feux qui détruisent la Californie, par exemple, les inondations un peu partout, les ouragans qui augmentent en puissance et en fréquence. Donc, le roman se conclut sur l'élection du candidat démocrate et sur la mise en place de projets scientifiques de mitigation. Il y a plusieurs aspects à aborder pour parler de science, donc j'ai décidé de me concentrer vraiment sur la représentation de la science dans le roman, que je ne vais pas détailler ici, mais je vais en évoquer quatre rapidement. La science et la politique, l'ingénierie du climat, la méthode scientifique et la perspective sociobiologique, qui est peut-être l'aspect assez original de ce roman-là en particulier. Donc, le premier, sans doute le plus évident et le plus courant dans son œuvre, vers la fin du roman, on rencontre une phrase qui synthétise sans doute parfaitement la perspective qui est adoptée. Donc, il parle de la NSF, la National Science Foundation. Its age of innocence was over at last. Donc, évoquant évidemment les commentaires des scientifiques après la création de la bombe atomique. Mais ici, on parle d'une autre forme d'innocence qui n'était pas celle qui a été évoquée par les scientifiques de la bombe. Donc, pas une innocence qui serait l'antithèse du péché, mais plutôt l'innocence de l'immaturité, celle d'un refus d'admettre que la neutralité politique n'est pas possible dans un monde qui brûle. Tout le roman est d'ailleurs un double plaidoyer pour que la politique arrête d'ignorer la science dans ses choix et pour que la science cesse de prétendre à la neutralité politique et s'implique directement. Donc, ça se manifeste de deux façons. La campagne électorale en arrière-plan de Phil Chase, un candidat démocrate très écologiste et pro-science, ami de plusieurs des personnages du roman. Chase prétend vouloir diriger comme FDR, donc comme Roosevelt dans les années 30, en changeant l'économie par expérimentation, une perspective politique récurrente dans l'œuvre de Robertson et dans Ministry of the Future notamment. Et de l'autre côté, parmi les projets de recherche sélectionnés par la NSF, il y a celui d'une plateforme électorale entièrement fondée sur des données probantes scientifiques et qui devient de fait le troisième candidat présidentiel, le candidat scientifique virtuel ou fantôme, puisque personne ne va jamais l'incarner. La plateforme devient très populaire parmi une partie de l'électorat au point de possiblement nuire aux candidats démocrates. Hein, il y a toujours le third party, c'est un grand problème dans la politique américaine qui est profondément bipartite. Donc, alors que les scientifiques du projet étudient les résultats, donc ils se réunissent en congrès et concluent que le candidat fantôme doit se désister pour éviter de séparer le vote et appuie le candidat le plus proche de la plateforme, Phil Chase, qui gagne la course. Mais la NSF, un organisme gouvernemental, est alors accusée de partisanerie et est entraînée dans la guerre culturelle médiatique, d'où la perte de l'innocence. Donc, elle est entraînée dans le cirque médiatique qui est plus fort que jamais aujourd'hui, mais qui donc clairement était déjà très présent au début des années 2000. Donc ensuite, sur le plan des autres représentations de la science, sur le plan de la mitigation du climat grâce à l'ingénierie, c'est intéressant parce que c'est d'une certaine façon une réintégration des thématiques de la terraformation, mais sur le mode mineur, sur le mode vraiment de projets spécifiques qui permettraient de retransformer la Terre en espace habitable. Et donc, de re-terraformer la Terre d'une certaine façon pour effacer les erreurs que l'humanité a commises et qui ont mené au changement climatique. Donc, il y a deux grands projets qui sont sélectionnés par la NSF qui sont montrés en détail dans le roman, mais il y a toute une liste. L'ajout d'une très grande quantité de sel dans l'Atlantique Nord pour redémarrer la pompe thermohaline et donc le Gulf Stream qui s'est arrêté dans le roman. À cause de la fonte des glaciers, notamment. Donc, les administrateurs scientifiques sont d'ailleurs invités à aller assister à l'opération sur place. Donc, on en est témoin, qui implique tous les pétroliers du monde détournés et remplis de sel, qui est alors projeté dans l'océan. L'autre projet qui est potentiellement plus efficace, mais aussi pas mal plus dangereux, c'est modifier génétiquement une espèce de lichen et la répandre dans tous les pays nordiques pour que les arbres auxquels elle s'accroche puissent stocker beaucoup plus efficacement le carbone. Il est même mentionné à un moment donné que leur projection de ce projet-là pourrait mener à un refroidissement de la Terre plus grand que ce qui a été, que les réchauffements qui ont eu lieu depuis le début de la modernité. Donc, on entrevoit le potentiel, les potentiels dérapages, mais contrairement à d'autres romans dont vous avez évoqué, il est très peu critique, Robinson, dans ce roman-là, c'est-à-dire qu'il y a très peu de contre-discours. Il y a très peu de doutes aussi. Il y a beaucoup de détails scientifiques sur les deux projets dans le texte, mais aucun éthicien, par exemple, pour évaluer les risques, aucun contre-discours scientifique qui se méfie des dérives possibles. L'argument, on dirait, qui est, au fond, dans l'urgence de la situation, c'est impossible de réfléchir d'une certaine façon, d'avoir un contre-discours. Donc, c'est un peu comme le point aveugle du roman, un optimisme scientiste un peu qui manque de nuances ou d'introspection, contrairement à d'autres cas qui, je pense, qui étaient peut-être dans la trilogie martienne, peut-être de manière un peu plus nuancée, mais qui avaient le mérite d'avoir la distance, qui n'était pas dans la politique contemporaine, qui permettait d'avoir une certaine distance critique grâce justement au déplacement du débat sur Mars. Donc, les projets d'ingénierie du climat sont donc très... Mais c'est vrai que c'est assez réaliste parce que quand on lit les articles scientifiques sur l'ingénierie du climat aujourd'hui, puis qui avaient déjà commencé à l'époque, effectivement, on voit une grande naïveté dans ces projets-là, puis dans ces articles-là. Il y a un très, très grand optimisme et très, très peu de doutes sur les conséquences possibles et désastreuses de projets de cette ampleur-là, alors que si on en est arrivé là, c'est clairement qu'on comprend très mal les systèmes qu'on a altérés. Et donc, les altérer, ça demanderait une vraie compréhension qui personne n'a prouvé dont on était capable. Mais au-delà de la politique et de la crise climatique, le roman intègre aussi la science de façon moins explicite. Je passe très vite, mais il y a un procédé formel du roman qui a retenu particulièrement mon attention, qui est l'utilisation des listes. Il aurait été beaucoup plus intéressant, à mon avis, si ça avait été plus radicalement intégré dans le roman. Mais quand même, c'est assez intéressant. On retrouve quand même une certaine poétique de la liste qui nous éloigne définitivement des listes à la Borges ou à la Pérec, qui énumèrent des éléments d'un tout, comparables ou non, pour créer un effet de saturation, une critique des processus de catégorisation, etc., ou de la consommation, par exemple. Chez Robinson, c'est dans une bonne dizaine de cas au moins, sur plusieurs pages à chaque fois, donc c'est assez notable. C'est plutôt des longs paragraphes de projets, d'idées, de théories, d'étapes qui sont listées avec des puces, qui font rupture avec la linéarité du récit pour s'approcher davantage d'une narration de la méthode scientifique, ou du moins de la pensée scientifique en train de se faire, de s'écrire. Donc, les paragraphes listés servent souvent de procédures, d'étapes logiques, de plans de mitigation, mais aussi de plans de travail pour la journée, de to-do list. C'est d'ailleurs comme ça que Frank les désigne le plus souvent, puisque le roman tente de reproduire le travail quotidien des administrateurs de la science. Ces listes-là font partie des procédés réalistes, mais aussi, ça fait partie de l'optimisme sans doute un peu naïf de la trilogie. La science peut empêcher la catastrophe. Voici la liste des choses à faire. Il suffit de la suivre. C'est une forme de rhétorique procédurale. Je pense qu'il y aurait quelque chose à analyser là, dans cette façon d'intégrer la science dans le texte que j'avais pas vu ailleurs. En tout cas, certainement pas fait de cette manière-là aussi systématique. Donc, finalement, la dernière forme d'intégration de la science que je veux juste évoquer, c'est le point de vue narratif sociobiologique, qui est vraiment au cœur du roman. Donc, à cause du choix de Frank comme point de focalisation de la narration, pour la vaste majorité du roman, c'est presque seulement lui, le récit est largement raconté à travers le filtre de la sociobiologie, puisque c'est sa spécialité, et alimenté par les articles les plus récents qu'il lit périodiquement dans la trame narrative le soir. Donc, ça altère sa façon de percevoir et d'expliquer le monde. Frank tente alors de comprendre ses propres motivations, d'expliquer les comportements qu'il observe chez les autres à travers son propre biais cognitif de scientifique, sociobiologiste. Il fait sans cesse des rapprochements et des comparaisons avec le comportement des primates, des autres animaux, utilise des arguments évolutifs ou des configurations du cerveau pour expliquer plein de choses, autant des rencontres amoureuses que l'importance bien plus grande qu'on imagine des émotions dans le processus cognitif. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus intéressant à laquelle il l'applique dans le roman, ce qui le conduit à une longue réflexion sur les intuitions bouddhistes, les preuves scientifiques de ces intuitions-là et l'intérêt de prendre cette donnée en compte pour changer les comportements. Donc, cette idée que les émotions seraient beaucoup plus importantes, même dans les processus rationnels, cognitifs, que ce qu'on pensait jusque-là. Ça pourrait être fait de manière plus fine, mais l'idée est loin d'être inintéressante, autant dans la construction, du roman que sur le plan de l'utilisation de la science pour changer les habitudes. En non pas faire appel au raisonnement pur, mais aux émotions qui sont en amont. L'omniprésence de la sociobiologie est aussi dans les réflexions sur le retour à la nature dans un contexte de catastrophe environnementale, un peu comme la première étape d'un primitivisme post-apocalyptique, hein, qu'on rencontre très souvent dans ce type de roman post-catastrophe. Mais là, comme on est dans la catastrophe, on voit les premiers signes d'un retour à des comportements primates. Et donc, mais avec un peu plus d'optimisme peut-être que dans ces romans-là. Donc, je vais m'arrêter ici sur ce roman, mais bon, c'est pour vous montrer qu'il y a quand même une variété. Je m'attendais à y trouver une trilogie plutôt catastrophe. C'est peut-être un peu comme ça qui a été lu, qui a été vendu, notamment par les titres. Mais c'est loin d'être le cas. C'est plutôt justement des romans sur la science en train de se faire. Et puis, l'aspect catastrophique est assez secondaire au fond.
Quand tu parlais de l'expérience avec les potentiels dérapages, j'ai pas pu m'empêcher de penser tout de suite à la possibilité d'embrasement de l'atmosphère quand on a fait exploser la première bombe nucléaire à la Mont-Godreau. Et Bon, on le sait, hein, la Deuxième Guerre mondiale a changé beaucoup de choses dans l'esprit de la science-fiction et de l'anticipation. Et je me demandais si cette scène-là, cette hypothèse-là, qui est quand même assez connue, avait pas eu un grand impact justement sur ce genre de réflexion dans les romans de science-fiction depuis la Deuxième Guerre. Parce que quand on relit ça aujourd'hui, on se dit que c'est quand même incroyable de voir tous ces scientifiques qui sont là, qui prennent des paris sur la possibilité que l'atmosphère s'embrase ou non. En Arizona, et puis bon, ben voilà, si ça s'embrase, ben tant pis. C'est quand même pas rien comme façon, comment dire, un peu légère de penser une possible catastrophe scientifique.
Ouais, mais bon, l'envers, c'est que là, ils pensent même pas à la catastrophe. C'est un peu ça, en fait. Mais je suis d'accord avec toi que c'était la légèreté était troublante, mais la réflexion sur la réaction en chaîne était comme nécessaire. Elle aurait peut-être dû avoir un peu plus d'impact que simplement un pari. Je suis assez d'accord avec toi. Peut-être que ça aurait dû entrer en compte dans leur réflexion, mais là, il n'y en a aucune. C'est-à-dire qu'ils vont répandre des OGM, des lichens OGM sur la planète, puis ils n'ont même pas conscience. T'sais, il n'y a aucune évocation des problèmes que ça pourrait entraîner. Ils s'en vont vendre ça aux Russes parce qu'ils sont plus offrants, puis il n'y a personne. Puis les Américains sont, ah ben, on va participer nous autres aussi, on ne voudrait pas être exclus quand même, puis il n'y a aucune mention. Donc, ouais, c'est assez étrange, mais ouais, je pense que tu as raison. Je pense que la réaction des scientifiques après la bombe atomique, elle est là tout le temps dans l'imaginaire, depuis, ça c'est clair.
Du coup, il n'y a pas de parmi les solutions qui sont présentées, c'est vraiment essentiellement des solutions de terraformation, enfin de vraiment très invasives. C'est pas des solutions du type sobriété ou faudrait moins consommer. Ça, c'est pas perçu. Ça, ce serait ma première question. Et juste une deuxième, je trouvais très intéressant le point sur les émotions. Et je me demandais comment était mise en scène, comment le récit était construit par rapport aux émotions des personnages. Parce que c'est vrai que Kim Stanley Robinson, comme il est souvent présenté comme un écrivain de hard science fiction, il est souvent critiqué comme étant un écrivain assez sec, assez rude, avec des personnages à la psychologie très faible, ce avec quoi je suis pas du tout d'accord d'ailleurs, parce que moi je pense au contraire que ces personnages sont très complexes, sont très intéressants, il leur arrive plein de choses, ils évoluent énormément au cours d'un récit, mais c'est vrai que c'est souvent la critique qu'on va faire à un récit de science-fiction, et notamment de hard science-fiction. Je pense qu'il pâtit un peu de cette image malheureusement, alors qu'elle est totalement injuste, et du coup, puisqu'il y a les émotions qui là sont le thème des émotions qui est explicitement mis en scène, est-ce que ça impacte, du coup, est-ce que ce serait pas vu comme, en extrapolant un peu, le voir comme sa manière de répondre à ces critiques qu'il a pu recevoir sur ses précédents romans? Je sais pas.
C'est assez intéressant parce que toutes les possibilités sont évoquées parce qu'on est vraiment dans le monde des administrateurs de la science. Et là, ça, je pense que c'est assez original quand même. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de romans sur les administrateurs de la science et des fonds de recherche.
C'est vrai.
Et donc, les réunions dans lesquelles ils discutent de toutes les formes possibles de réaction occupent quand même beaucoup d'espace. Il y a des PowerPoints qui sont décrits en détail. Donc, c'est très détaillé de ce côté-là. Puis oui, il y a tout à fait. Il n'y a pas que de la mitigation, là. C'est surtout ça qui est détaillé parce que Frank, c'est le responsable de la mitigation à la NSF. Donc, c'est lui, c'est un peu son obsession à lui. Donc, forcément, c'est sûr que ça va occuper plus d'espace. Mais on sent aussi qu'on a une impression qu'il est trop tard pour autre chose. On a un peu une impression on serait peut-être dans 5-10 ans où on serait même plus capable de tenir un discours de changement, mais ils sont faits quand même. C'est-à-dire que la plateforme politique qui est présentée, parce qu'elle est très, très détaillée, il y a aussi la réduction des gaz à effet de serre, par exemple, c'est le premier item. Elle est impliquée dans à peu près toutes les solutions. Donc, oui, c'est pas non plus, on peut pas dire que c'est complètement, ils ont complètement abandonné puis sont purement dans les solutions de mitigation. Son œuvre est associée à la terraformation. Mais d'une certaine façon, il est critique aussi de ça. Il montre bien que les politiciens sautent sur ces projets-là parce que c'est les plus faciles à faire admettre à la population parce que ça les implique pas. Ça implique pas des changements de culture, ça implique pas des changements d'habitude. C'est beaucoup plus facile de faire passer dans une campagne électorale parce qu'il nous montre en plus que ces choix-là, ils doivent être faits en pleine campagne électorale. Ça nous montre que la démocratie, des fois, ça met aussi des freins à faire les bons choix parce que tu es obligé de convaincre des électeurs de te choisir. Puis en même temps de leur dire qu'ils vont être obligés de faire des choix difficiles. Donc forcément, c'est presque impossible. Donc on leur vend plutôt des grands projets qu'on va mettre des milliards, on va aller lancer du sel dans l'océan, puis ça va tout régler. par rapport à l'émotion, c'est très intéressant parce que oui, effectivement, le personnage de Frank est complexe, il évolue énormément, puis étant donné qu'on est beaucoup dans son monde intérieur, dans son discours intérieur, on a beaucoup accès à ses émotions. Est-ce que c'est par rapport à, est-ce que c'est en réaction aux critiques, j'en sais rien, mais ça finit par prendre une place assez centrale, sa propre perception des problèmes de la science, de la société, de comment les humains se comportent. Et l'émotion passe par le bouddhisme, qui est ensuite expliqué par la science. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'il y a les communautés tibétaines qui est au centre de la trilogie, qui est amie avec les scientifiques, qui a été déracinée, qui était une communauté tibétaine qui vivait pas au Tibet, mais qui vivait exilée sur une île, qui est détruite pendant le roman, en fait, qui est détruite par la montée des eaux, par un ouragan, et puis ils sont tous réfugiés à Washington. Et le personnage principal se retrouve à aller vivre avec eux. Il est très ami avec un lama tibétain, pense même que le fils d'un ami est une réincarnation. Donc le bouddhisme joue un très grand rôle dans le roman, une très grande place, mais pour Frank, il va l'admettre seulement quand il va avoir des preuves scientifiques publiées dans ses articles de sociobiologie qu'il lit, qui prouvent que les émotions ont le rôle que les bouddhiste lui donne. C'est quelque chose c'est comme une espèce d'illumination qu'il y a vers la fin du roman, en fait. Que tout ce temps-là, on a essayé de convaincre les gens de faire les choses à partir de la raison, mais qu'en fait, même le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Objectivement, c'est dans la partie du cerveau des émotions qui est à l'origine du raisonnement. Qu'il faut partir de l'émotion, sinon on ne peut pas arriver au raisonnement. Et puis, il donne des exemples qui sont autant basés sur la méditation bouddhiste que après sur ce qu'il constate autour de lui. Donc l'émotion est complètement au centre du récit. C'est vrai que c'est pas ce que ça donne comme impression quand on parle d'administration de la science, mais pourtant effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas des personnages qui sont si froids ni si unidimensionnels que ça, en particulier dans ce roman-là. Je pense qu'on peut peut-être passer à Marceau pour conclure notre épisode. Donc, Marceau qui va nous parler plutôt de la réception de l'œuvre de Kim Stanley Robinson par d'autres, donc chez en sciences humaines.
Oui, merci Hélène. Au travers de ma thèse d'histoire et études littéraires, je m'intéresse à la façon dont les sciences humaines font usage de la science-fiction. Donc, je m'intéresse à l'espace francophone des années 68 à nos jours. Et évidemment, au cours de mes recherches, je suis tombé à de nombreuses reprises sur des citations de Kim Stanley Robinson sur l'usage de ses concepts et de sa pensée. Je précise que c'est vraiment je vais essayer de dégager des tendances qui sont concentrées sur l'espace francophone, appliquées au territoire américain ou au Royaume-Uni et aux sciences de la matérialité et du vivant, les analyses seraient très certainement tout autres. Ce podcast en témoigne. Kim Stanley Robinson est aujourd'hui l'un des auteurs de science-fiction les plus cités dans le monde académique. Et l'espace francophone n'y échappe pas. Cependant, en comparaison au monde anglo-saxon, les citations de Kim Stanley Robinson dans le monde académique francophone arrivent relativement tard, puisque on le constate seulement à partir des années du milieu des années 2010, alors que ses romans sont traduits en France, en français à partir des années 90. J'en fais pas la cause principale, mais on peut peut-être lier ça à la publication de son roman 2312, donc en 2013, et traduit en 2017, et puis évidemment à l'accélération et à l'intensification de la médiatisation des enjeux anthropocéniques et de l'avènement de la réalité matérielle de ceux-ci avec la terraformation en Chine, par exemple, ou la canicule récente en Inde, et participe à l'imaginaire prophétique qu'on associe souvent aux auteurs de science-fiction. Reste que Kim Stanley Robinson se démarque tout de même par la pluralité de ses romans mobilisés par les chercheurs. Donc 2312 revient régulièrement, Aurora et les menhirs de glace aussi. Et puis, on en a parlé, la trilogie martienne qui est en fait un incontournable. Parce que, comme on a pu le voir avec vos différentes interventions, si Kim Stanley Robinson est régulièrement cité, c'est en général pour trois raisons différentes. Donc la première et la plus évidente, c'est le concept de terraformation. Kim Stanley Robinson est en ce sens souvent désigné comme celui qui a popularisé le concept et donc associé, comme Julien l'a dit, à Jack Williamson, considéré par beaucoup comme l'inventeur de ce concept en 1942. Et puis régulièrement cité aussi, ce qui peut paraître moins évident, à Christopher Nolan et à son Interstellar, pour l'idée d'un espace de vie artificielle façonné en dehors de la Terre. Si cette association est faite, c'est, je pense, dû à l'extrême popularité du film de Nolan. Comme c'est souvent le cas lorsque les sciences humaines font appel à un corpus science-fictionnel, la plupart du temps où Kim Stanley Robinson est mobilisé, c'est moins souvent pour la forme de son texte et l'expression littéraire, mais plus pour comme réservoir d'idées, comme idées de science qu'on mobiliserait dans les sciences humaines et sociales. En effet, l'une des raisons pour lesquelles il est régulièrement cité, on l'a dit aussi, c'est sa figure d'auteur fer de lance de la hard science-fiction, ce qui lui vaut d'ailleurs la possibilité d'être régulièrement invité dans différents événements scientifiques de par la rigueur de ses romans. Il fréquente de très près ces milieux et pas seulement les sciences dures. J'ai été surpris récemment de le voir citer Andreas Malm, historien marxiste de l'université de Lund, pour différencier l'idée d'une violence contre le vivant, donc qui serait illégitime, et d'une violence plus légitime contre la technique responsable de la destruction de ce même vivant. Enfin, la troisième raison pour laquelle Robinson est mobilisé, ce dont tu as parlé, Hélène, c'est les liens entre science, politique et capitalisme. Et justement, je pense que ces trois raisons, elles nous éclairent en fait sur ce qui est très spécifique à Kim Stanley Robinson, c'est la typologie des disciplines qui font usage de ce dernier. Parmi elles, la géographie, ce qui est assez rare, la géographie mobilise plutôt assez peu des auteurs de science-fiction, mais Kim Stanley Robinson apparaît assez régulièrement. Donc je pense à Michel Lussault ou Vincent Deschambre, qui, dû à ces questions d'habitabilité, mobilise Kim Stanley Robinson. La sociologie, et plus particulièrement la sociologie des sciences, donc Julien, t'en es l'incarnation ici, mais on peut penser aussi à Arnaud Saint-Martin ou à Aude Guéguen et Laurent Jean-Pierre. Mais également la science politique, ce qui paraît là encore évident avec Yannick Rompala qui mobilise tout un tas d'autres auteurs de science-fiction. Et puis la philosophie avec Yves Citton, Ariel Kirou, Baptiste Morisot ou encore Pierre Charbonnier. D'ailleurs, ce dernier, qui est donc, je le rappelle, historien des idées environnementales, qui cesse de vanter la pertinence de l'auteur, notamment dans son dernier ouvrage La culture écologique, ou son compte Twitter, où il ne cesse de faire des mentions de Kim Stanley Robinson en déclarant en mai 2022, je le cite, son roman The Ministry for the Future est l'un des meilleurs livres jamais écrits sur la question climatique et commence par un épisode de canicule en Inde comme celui qu'on vit actuellement. Donc justement, je crois en fait que la quasi-entièreté des mobilisations de Kim Stanley Robinson font usage de ce dernier pour traiter de problématiques environnementales. Et en ce sens, on peut faire le lien avec une autre autrice de SF qui fait elle aussi partie des auteurs les plus convoqués pour parler d'anthropocène. Donc je pense évidemment à Ursula Le Guin, et par différenciation, je trouve ça intéressant de les comparer. Donc on peut constater la singularité des mobilisations de Kim Stanley Robinson dans les sciences humaines et sociales, justement par la différence avec les disciplines qui mobilisent Le Guin. Donc les problématiques abordées par cette dernière, telles que la critique du progrès ou du patriarcat, conduisent à une monopolisation de sa pensée par la philosophie, et plus particulièrement par la philosophie des sciences, avec Isabelle Stengers, et donc Donna Haraway qui a participé à son extrême popularisation. Et justement, Donna Haraway, elle fait un usage de Kim Stanley Robinson qui me semble être l'un des plus originaux. Donc je m'éloigne de l'espace francophone, mais l'intensité du dialogue qu'entretient Haraway avec Latour, avec Stengers et avec Vinciane Després me semble justifier que je l'intègre ici. Donc si je mentionne Haraway, c'est parce qu'elle est la seule à faire ce qui me semble être un usage transfictionnel de Kim Stanley Robinson. Donc, pour rappel, la transfictionnalité, c'est un concept créé par Richard Singelais pour exprimer la pratique de partage d'éléments fictifs entre plusieurs textes, ou pour reprendre les mots d'Anne Besson qui le définit assez bien, le voyage d'un nom et de ses principales caractéristiques entre plusieurs univers fictionnels. Donc, justement, Donna Haraway, dans son ouvrage Vivre avec le trouble, donc, qui a été publié en 2016, elle reprend le concept de The Deep Wing, traduit en français par atermoiement, que Kim Stanley Robinson crée dans 2312. Donc, pour caractériser la période de 2005 à 2060, durant laquelle il spécule que les humains n'auraient pas su répondre aux enjeux du changement global. Et donc, la philosophe des sciences, Donna Haraway, va faire un premier usage du terme, qui celui-ci n'est pas encore de l'ordre transfictionnel, en écrivant dans Vivre avec le trouble, je la cite, Nous devons réagir, nous autres êtres humains, de partout dans le monde, face à des situations d'urgence extrême et systémique. Jusqu'ici, pourtant, et comme a pu l'écrire Kim Stanley Robinson dans 2312, un récit SF peut-être trop optimiste, pardon, se déroulant entre 2005 et 2060, notre époque s'est caractérisée par un état d'agitation indécis, un atermoiement. Ce terme est peut-être plus approprié qu'anthropocène ou capitalocène d'ailleurs. On pourra bientôt lire l'atermoiement dans les strates rocheuses de la Terre. On peut déjà le faire dans ses couches minéralisées. Donc plus tard dans l'ouvrage, Donna Haraway refera usage de ce terme, cette fois-ci donc transfictionnellement, comme je le disais, lorsqu'elle imagine dans un court chapitre fictionnel l'après-anthropocène. Elle explique la base de son récit, donc qui se situe dans un futur assez proche, que les historiens de notre époque ont nommé la période de 2005 à 2050. Elle modifie d'une dizaine d'années l'atermoiement, mais on ne comprend pas trop pourquoi. Donc, comment la période du grand atermoiement est utilisée par les historiens pour définir ce que nous définissons comme l'anthropocène. Elle intègre ainsi ainsi ce concept d'atermoiement à son propre récit fictionnel, et cette transfictionnalité, à mon sens, tout l'usage, toute la spécificité de cet usage, j'ai pas retrouvé ailleurs. Donc après ces analyses typologiques assez succinctes, finalement, on peut tout de même considérer la réappropriation de Kim Stanley Robinson comme un phénomène particulièrement typique du décloisonnement des frontières propres à l'anthropocène, d'abord à travers le dialogue fiction et science, à la fois par ses mécanismes citationnels, intertextuels et transfictionnels, qui vont se faire, à mon sens, de plus en plus récurrents, mais aussi parce que, à travers lui, les sciences humaines et sociales sont amenées à traiter d'enjeux habituellement assez propres aux sciences de la matérialité du vivant, et elle parle de terraformation, ce qui n'est pas forcément très régulier pour les sciences humaines sociales. Et ces décloisonnements conduisent justement à reconceptualiser des termes jusqu'ici unidimensionnellement technicistes, comme c'est le cas de la terraformation, de la réappropriation de la terraformation par le philosophe Baptiste Morisot, puis par l'historienne des sciences Frédéric Aïtouati et par le géographe Michel Lussault, qui vont faire de la terraformation non plus un concept techniciste, mais bien une manière de penser, de réhabiliter l'idée d'une habitabilité de la Terre plus sobre et non pas sur des usages de la technique. Ces réappropriations de Kim Stanley Robinson et plus largement de la science-fiction, elles semblent être un terreau fertile vers de nouvelles épistémologies de l'anthropocène et de réappropriation de concepts jusqu'à là associés au capitalisme, à la technique.
Merci beaucoup. Il y a quelques années, j'avais travaillé sur la façon dont les scientifiques, eux, utilisaient Borges, comme en citant Borges constamment. Il va y avoir un exergue, par exemple, dans un article scientifique où on va le citer directement, puis après, on l'évoquera pas tellement, on n'utilisera pas tant ses idées. Mais Kim Stanley Robinson, comme on l'a dit plus tôt, est beaucoup utilisé comme une littérature de concept plutôt que dans sa poétique, dans son style. Est-ce que c'est vraiment évoqué comme si c'était pas de la fiction d'une certaine façon? Est-ce que son œuvre est évoquée comme de la fiction, comme de la littérature, ou simplement comme si c'était des idées pures? Et comme s'il faisait partie, au fond, d'un créateur de théories de sciences sociales ou de théories scientifiques.
C'est intéressant que tu parles de Borges, parce que justement, Baptiste Morisot, dans son article dans lequel il parle de terraformation et de Kim Stanley Robinson, c'est un article qui est avant tout sur Borges. Je dirais que je nuancerais quand même ce que j'ai dit. Il y a quand même plusieurs chercheurs qui vont faire des usages et d'analyses de la forme de Kim Stanley Robinson, mais dans la grande majorité, je pense que c'est vraiment plus pour ses concepts et comme une référence. Finalement, on se demande parfois s'ils l'ont vraiment lu. On fait appel à lui parce que c'est la référence aujourd'hui presque universelle sur la terraformation, même presque plus qu'on fait appel à Jack Williamson. On mentionne plus régulièrement Kim Stanley Robinson. Je ne sais pas si les usages de Kim Stanley Robinson, on pourrait dire que ce soit des usages d'ordre scientifique et qu'on mentionne comme scientifique. Cependant, très régulièrement, il y a cet aspect imaginaire, prophétique de l'écrivain science-fiction, mais qui n'est pas propre finalement à Kim Stanley Robinson. Mais quand on parle de Kim Stanley Robinson, on va parler de lui comme celui qui aurait prophétisé la terraformation, surtout là en ce moment avec les affaires de géo-ingénierie en Chine ou même en Afrique. Il est souvent mentionné comme ça.
Donc, d'une certaine façon, son œuvre est traitée comme des expériences de pensée plus que comme de la fiction. Ouais.
Ouais, exactement. Je pense que c'est exactement ça. Et Irène Langlais, d'ailleurs, reprochait ça à Yannick Rompala de faire des usages qui sont d'ordre plus de l'expérience de pensée plutôt que de la littérature. Et Yannick Rompala, dans sa façon d'aborder la science-fiction, il le précise d'ailleurs lui-même, il est assez clair. Il dit quelque chose comme « Je vais me désintéresser de la forme et de l'esthétique et pas m'intéresser et m'intéresser seulement aux idées. » Donc, Kim Stanley Robinson semble là être assez propice pour lui dans ses usages-là.
C'est vrai que Kim Stanley Robinson, dans ce cadre-là, il n'est pas si exceptionnel que ça, finalement. Parce que je pense qu'on depuis les années 2010-2012, il y a quand même un mouvement de fond assez général qui fait que dans les sciences humaines et sociales, on s'intéresse beaucoup plus à la science-fiction qu'autrefois, et de plein de manières différentes, comme tu l'as montré. Mais alors, tu vois, par exemple, moi, je pense que quelqu'un comme Yannick Rumpala, il le dit explicitement, lui, ce qui l'intéresse dans la science-fiction, c'est voilà, comme une ressource, en fait, une ressource pour penser et pour faire de la politique même, pas seulement pour faire de la science politique, mais presque pour faire de la politique. On devrait utiliser la science-fiction comme un réservoir de futurs possibles, de tests. Voilà. Mais je pense que parmi les gens que tu as cités, il y a aussi d'autres usages en fait de la science-fiction. Ce qui me semble quand même assez intéressant, c'est qu'il y a aussi des gens qui l'utilisent comme une méthode d'enquête. Et ça, c'est un peu différent quand même comme approche. Et tu vois, par exemple, il y avait, vous savez, les historiens des sciences, Naomi Oreskes et Eric Conway, qui ont écrit un petit livre qui s'appelle The Collapse of Western Civilization, paru en 2010, je crois, ou 2012, qui cite explicitement Kim Stanley Robinson comme une inspiration. Et leur petit livre, c'est pas un livre d'histoire des sciences, c'est un récit de science-fiction. Ils imaginent un historien des sciences qui, dans le futur, ferait l'histoire de l'effondrement de la civilisation occidentale à cause de l'écologie, tout ça. Donc ça, c'est un exemple, mais voilà, tu avais cité aussi, bon, alors Donna Haraway, évidemment, elle a aussi écrit de la science-fiction, les histoires de Camille, je pense que c'est à ça que tu faisais référence,
C'est
peut-être.
ça, c'est...
La philosophe Vinciane Desprez, aussi avec ses histoires, alors elle, qui s'intéresse plutôt à Ursula Le Guin, qui va carrément, enfin voilà, c'est des gens qui se mettent à écrire de la science-fiction en fait. Et c'est un statut assez intéressant parce que c'est de la science-fiction, mais c'est publié par des éditeurs souvent académiques, pas toujours littéraires, et c'est des gens qui sont pas du tout des écrivains de science-fiction à la base, mais pour qui la science-fiction devient une méthode pour peut-être produire des nouvelles formes de connaissances, ou je ne sais pas. Et donc, je pense que Kim Stanley Robinson, il s'inscrit un peu dans ce contexte-là plus général. Mais il a un truc qui est assez génial chez lui, c'est qu'il parvient à se déplacer facilement d'un champ à un autre, quoi. Il est très cité et apprécié dans les sciences sociales, il est très cité et apprécié dans les sciences naturelles, etc. Enfin, donc il se déplace, voilà. C'est quelqu'un dont l'œuvre se déplace vraiment très facilement d'un champ à un autre, quoi.
Non, bien sûr, c'est exactement de ça dont je parlais quand je mentionne la quantité de disciplines en fait qui font usage de Kim Stanley Robinson en opposition à Le Guin, où là on voit qu'elle est beaucoup plus monopolisée par la philosophie. Et je pensais plus en fait à ce texte de Oreskes et Conway que j'ai lu, mais il y a très très longtemps, donc je me souvenais même plus qu'il faisait mention de Kim Stanley Robinson. Mais en fait, ça me semble être justement cet usage de transfiction que fait Haraway. Je crois pas que Després mentionne Robinson, mais c'est exactement du même ordre, tout à fait. C'est tout le travail d'une partie de ma thèse d'essayer de voir cette remobilisation de la science-fiction par des écrivains, enfin par des chercheurs qui ne sont pas écrivains de science-fiction, etc.
Oui, ben moi je voudrais revenir sur l'idée d'expérience de pensée que je trouve très intéressante parce que ça fait longtemps que je dis que ce qui rapproche les sciences de la littérature, c'est justement l'expérience de pensée comme modèle de l'hypothèse en fait, que toute fiction commence par une hypothèse et que même si les objectifs épistémologiques sont complètement différents dans les sciences pures qu'en littérature, il reste que on part de la question qu'est-ce qui se passerait si? Mais j'ajouterais aussi qu'une expérience de pensée, c'est pas une idée pure, c'est aussi une narration. C'est-à-dire, ça raconte quelque chose. On met là-dedans une forme, on la situe dans un espace, un environnement particulier. Et en ce sens-là, je pense pas qu'on puisse, même en science, sortir l'idée de l'expérience de pensée d'une forme. Et en ce sens-là, le rapprochement me semble d'autant plus intéressant si on accepte l'idée que l'expérience de pensée est une hypothèse qui nécessairement a une forme, est un type de narration, est un type d'énonciation, s'énonce d'une certaine manière, d'un certain point de vue, dans un certain contexte environnemental ou historique, etc., etc.
La citation de, je l'avais vue sur Borges, mais de ce que t'en dis, je pense que ça doit être la même chose sur Stan Robinson, c'est-à-dire que le contexte d'énonciation de l'idée de départ disparaît en fait. Donc ça fait partie du problème d'interprétation souvent, le problème de dialogue qui est un peu qui finit par être un dialogue de sourds. Par exemple, des scientifiques vont voir les idées intéressantes que des littéraires vont avoir, mais vont omettre de comprendre que ces idées-là s'énoncent dans une narration, puis que cette narration-là fait partie de l'idée pour les littéraires, parce que pour les littéraires, l'idée s'énonce aussi dans la forme. Donc, de séparer les deux, pour un scientifique, ça a du sens, pour un littéraire, ça n'en a pas. Puis c'est pour ça que des fois, les citations, en tout cas moi, que j'avais constaté sur Borges, j'ai pas fait le travail sur d'autres, mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a comme une couche de sens qui disparaît, qui reste que l'hypothèse de départ et plus tant l'expérience de pensée. Est-ce que t'as perçu un certain appauvrissement des idées, par exemple, dans le transfert d'un domaine à l'autre?
Ouais, mais comme le disait Julien, là, je pense que cet appauvrissement, il n'est pas propre à Kim Stanley
Non,
Robinson. La
non, absolument pas.
science-fiction, tu le dis avec Borges, mais c'est vraiment très, très fort avec la plupart des mobilisations de la science-fiction dans les sciences humaines et sociales. Mais je pense que justement, cet aspect, ces réusages que peuvent faire Oreskes ou Haraway ou Després me semble être une forme de redonner de la forme, de l'esthétique dans les sciences humaines et sociales et dans une forme d'hybridité qui apporte une réflexion sur de la production du savoir, en fait, sur de l'expérience, de nouvelles épistémologies. Et là, ça permet de réintégrer de la forme, de la légitimité à quelque chose qui en a été dépossédé en quelque sorte.
Je pense que c'est prometteur, en tout cas, pour un dialogue futur. Ouais.
Je pense aussi. Ouais.
Bon, mais je pense que c'est un très bon endroit pour terminer, puisqu'on a réussi à prendre un peu de distance par rapport à notre objet, puis avoir une réflexion un peu plus large sur le domaine. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc, je vous remercie énormément pour vos contributions, pour avoir été là pour la discussion. C'était passionnant.